commencer sans. Dans les remarques préliminaires, on se disait aussi que le samedi après-midi, c'est toujours un pari. Et voilà, il faudra peut-être qu'on revoie pour une prochaine édition le calendrier dans la semaine. Non pas que ce ne soit pas bien que vous soyez venu déjà à ce nombre-là, mais parce qu'il y avait eu plein de questions, plein de débats posés depuis jeudi soir, et y compris hier, toute la journée, et dont on avait dit on rediscutera de ça samedi. Et bon, voilà, c'est toujours un peu frustrant de rater cette occasion d'aller au bout d'un débat. Alors ce débat, il concerne, si l'on veut, l'altermondialisme, hein, mais l'altermondialisme, c'est déjà réduire peut-être un peu les choses, parce que qu'est-ce que l'altermondialisme, qu'est-ce qu'il recouvre, etc. Donc dans notre esprit, c'était surtout se poser la question des solidarités internationales ou transnationales face à l'état du monde à travers des enjeux qui sont aussi bien des enjeux économiques et sociaux que des enjeux politiques. Et parfois militaires, ou, enfin, des enjeux liés au développement de l'Empire, ou des enjeux écologiques ou citoyens. Voilà, c'est comment ces enjeux-là peuvent trouver des réponses en termes de construction de lutte, de formes de militantisme, de réactivation des formes traditionnelles, classiques de militantisme indispensables pour poser la question des salaires, pour poser la question des services publics, etc. Et en même temps, des formes nouvelles qui puissent à la fois faire se rencontrer des groupes sociaux qui ne sont pas spontanément engagés dans ce type de lutte et des nouvelles générations, etc., etc. Et ce, au-delà des frontières. C'est ce débat-là que nous souhaitions poser. Et puis peut-être un deuxième débat, qui est celui qui nous a été envoyé très très fort jeudi soir par nos amis du monde diplomatique, qui ont été encore plus déconstructivistes que des sociologues, puisque un des intervenants a fait une sorte de critique des manières de voir la cause indigène dans le mouvement altermondialiste, correspondant davantage au fantasme du petit blanc du Nord qu'à la réalité de ce qu'est la domination dans les pays du Sud. Voilà, donc ça a été posé de façon un peu brutale, et en même temps, ça a été repris le lendemain lors des présentations des sociologues, qui étaient peut-être moins dans la déconstruction, du coup, parce qu'elles montraient que dans des cas bien singuliers, en Inde notamment, et en Bolivie aussi, évidemment, c'était très important de comprendre la réalité sociale nationale, la structure sociale, les groupes sociaux, leurs forces, etc., les questions économiques, quelle situation économique ça s'adosse, la situation politique, et de voir aussi comment la situation politique, elle est construite de l'extérieur, par les politiques internationales, ou par les groupes transnationaux qui s'opposent à ces politiques, mais qui viennent dire aux gens comment lutter, en quelque sorte, et qui ils sont, hein, donc les ONG notamment, qui parfois arrivent avec leurs lunettes pour décrire la réalité, et parfois sont un peu à côté de la plaque. Et en même temps, ça ne fait pas totalement obstacle à la lutte, puisqu'on voit, notamment dans le cas des intouchables, comment ils retournent au fond l'image un peu caricaturale qu'on peut donner d'eux-mêmes pour se servir quand même de ces politiques d'ONG pour continuer leur combat propre sur leurs objectifs propres. Et donc, dans toute cette complexité, on voyait comment, à la fois, c'est important de travailler sur les limites des mouvements sociaux, sur les contradictions qui les traversent, et sans jamais complètement désespérer Billancourt, ou le Billancourt des luttes altermondialistes, parce que malgré tout, finalement, les choses ne s'arrêtent jamais là, et les groupes sociaux ne sont jamais enfermés dans l'image que l'on donne d'eux. Donc cette question-là, peut-être qu'on peut la débattre également aujourd'hui, donc il faut que je me taise, et que je donne la parole à nos trois invités. On a invité parce qu'on les a... Ils se présenteront un peu d'eux-mêmes, enfin je leur demande de le faire, mais on sait au moins que Christophe Aguiton a été un leader important à Sud PTT, avant d'être un des porte-parole d'Agir Ensemble contre le chômage, et de travailler beaucoup notamment aux marches européennes contre le chômage et la précarité, qui ont été en France en tout cas, et pour une part en Europe, une des premières étapes de la construction du mouvement altermondialiste, et ensuite s'est longuement investi, et aujourd'hui encore, dans ATTAC et dans l'organisation des forums sociaux. Aurélien Bernier partage avec Christophe le fait d'être très engagé dans ATTAC, mais sur des enjeux plus spécifiques qui sont ceux de l'écologie, notamment à Poitiers, ceux qui l'ont connu dans, enfin, ce qui est mon cas, dans le militantisme local, c'était surtout autour de la question des OGM. Depuis, il a développé d'autres cordes à son arc. Et aujourd'hui, militant, faut-il dire politique ? Oui. C'est un mouvement politique, le MPEP, ce n'est pas un parti politique. En tout cas, il prolonge le militantisme d'ATTAC sous une autre forme, avec en prolongeant dans le champ politique des questions, enfin d'une manière de voir la question des solidarités, d'une façon de traiter les enjeux internationaux. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, notamment dans la manière d'appréhender l'Europe et la manière d'appréhender les alternatives politiques pour résister à la donne néolibérale internationale. Kamel Taffer a participé grandement aux luttes étudiantes de ces dernières années. Aujourd'hui, il n'est plus à Sud étudiant, il l'a été. La question des luttes, et il a maintenant le recul du sociologue. La question, voilà, croiser les points de vue, ne pas séparer complètement l'aspect militant de l'aspect un peu réflexif, ça nous paraît vraiment important. Et donc, tous y réfléchissent, ils ont écrit, etc. Et en même temps, ils ont été engagés dans les luttes. Et la question étudiante doit être traitée de façon un peu particulière, parce que c'est, enfin particulière, je ne sais pas, mais en tout cas, les politiques de l'enseignement supérieur sont vraiment un des axes stratégiques qui s'est très développé ces dernières années, qui a été un lieu de pénétration très très fort dans les institutions comme celle de la France, de la nouvelle donne managériale et néolibérale. Et les luttes étudiantes, telles qu'elles se développent encore aujourd'hui, en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Angleterre, en France, là il y a une pause en France, mais ça va peut-être reprendre, surtout si, comme on nous l'annonce, les droits d'inscription vont être de nouveau à l'ordre du jour. Les droits d'inscription sont repoussés depuis des années dans l'agenda politique, mais ça fait partie du programme des néolibéraux, et donc évidemment les luttes étudiantes seront aussi, et de la jeunesse, et la capacité à les lier avec les autres enjeux seront un aspect très important des luttes des prochaines années. Donc on leur a proposé de parler assez brièvement pour ensuite pouvoir donner la parole à la salle, mais eux aussi de reprendre la parole pour préciser leur point de vue, que le débat puisse comme ça être assez dynamique. Donc on peut commencer.
Donc, non, la question, et je suis vraiment d'accord avec la façon dont tu l'as posée, n'est pas de savoir si ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste, surtout pas marque déposée, mais qui pourrait l'être, est en grande forme, en forme moyenne ou en petite forme. Hein. Bon, et donc, encore pire serait de se demander si le mouvement altermondialiste est en ATTAC, en France en tout cas, est-ce que ATTAC est en croissance, en décroissance ? Bon, ça n'a aucun sens. Aucun sens au sens où des mouvements de type ATTAC, il en a existé pas mal dans la période que nous avons vue dans le film, c'est-à-dire entre 1999 et 2002. Hein, bon, des mouvements qui s'appelaient Globalized Resistance en Angleterre, Movimiento de Resistencia Global en Catalogne et en Espagne, Direct Action Network aux États-Unis et ATTAC dans un certain nombre de pays européens. Ces mouvements-là ont disparu dans à peu près tous les pays. Il reste ATTAC assez substantiel en France, en Allemagne, dans le monde scandinave. Basta. Donc, on a un ATTAC qui n'est quand même pas si fort que ça, 10 000 adhérents, qui est présent dans 6 ou 7 pays du monde, c'est tout. Donc, si on discute de ça, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Donc, la vraie question, elle est autre, c'est de se demander si l'articulation un peu nouvelle entre mouvements sociaux que le film montre bien existe ou pas. Est-ce qu'il existe, pour le prendre de façon un peu plus théorique entre guillemets, un militantisme transnational possible ? Ce serait ça la question. Hein ? Et qu'est-ce que pourrait être cette transnationalité de l'activisme ou du militantisme ? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus intéressante et qui permet donc de revisiter tout ce qui s'est passé depuis les forums sociaux, où vont infiniment plus que les militants d'ATTAC. Hein ? J'ai fait un compte rapide, il y a entre 10 000 et 20 000 Français qui ont participé à un ou plusieurs des forums sociaux mondiaux. Donc c'est quand même assez considérable, bon, et qui viennent de la CGT, de Sud, des Amis de la Terre, des tas d'associations, ATTAC étant une parmi d'autres, hein, bien évidemment. Donc, est-ce que là-dessus, il y a quelque chose qui continue à exister ? Alors, ma réponse est plutôt oui, hein, et le terme plutôt n'est pas secondaire, hein, ce n'est pas un oui franc et massif. Je reprendrai une formule qui est celle d'un sociologue nord-américain qui s'appelle Taro, qui a écrit un livre qui répond à la question « Est-ce qu'il existe un militantisme transnational ?» en disant « Oui, si on considère qu'il existe des « rooted cosmopolitan », c'est-à-dire des cosmopolites enracinés, ou des gens à la fois enracinés et cosmopolites. C'est ça sa formule, ça montre que c'est une tension, ça montre que c'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre au quotidien et à faire perdurer, mais ça montre en tout cas que des possibilités existent. Alors pour le démontrer, je vais prendre quelques exemples. Le plus facile, mais qui serait à mon avis très réducteur, c'est de considérer qu'il y a quand même des moments de lutte internationale qui perdurent. Hein. Le film qu'on a vu n'est pas un film d'archives du siècle dernier. Hein. Pour en donner trois exemples, on a eu un forum social mondial à Dakar qui a été très bordélique dans son organisation, mais assez enthousiasmant dans ce qui s'en est dégagé, dans l'impact politique qu'il a eu dans la région ouest africaine et dans la capacité de mise en réseau de militants qu'il a permis, hein, avec beaucoup de militants français pour des raisons y compris linguistiques. Hein. Bon, donc ça montre que ces espaces-là ne sont pas morts et en fin de vie. Hein. Dakar a vraiment été... Il y avait 70 000 personnes dans un tout petit pays comme le Sénégal, c'est beaucoup, hein, bon, avec beaucoup de délégations étrangères. Hein, je ne vais pas en faire la liste ici. Il existe des nouveaux terrains de mobilisation sur lesquels le transnationalisme des mouvements va de soi. La question, par exemple, de la justice climatique, c'est-à-dire de la mise en commun des questions environnementales et des questions sociales. Copenhague a été un moment assez fort de mobilisation où beaucoup de Français se sont investis, pour donner l'exemple de notre pays, mais beaucoup plus que ça, parce qu'on avait une manifestation de plus de 100 000 personnes, là aussi, dans un petit pays qui est Copenhague. Et puis, il y a encore des sommets et des contre-sommets qui n'auront probablement pas l'impact qu'ils ont pu avoir à Gênes, pour prendre l'exemple du film, mais on en a un, nous, ici, hein, donc c'est aussi un appel à la mobilisation. On va avoir un G8 avec un contre-G8 au Havre, le G8 sera à Deauville, le contre-G8 sera le week-end du 20-21 ou du 21-22, enfin, c'est celui-là, en tout cas, du mois de mai au Havre, donc c'est un encouragement à s'y mobiliser et à s'y rendre, et il s'y passera des choses, et pas que des manifs ou des actions plus militantes, mais aussi des débats, des discussions, etc. Bon, donc il y a toute une série d'occasions et toute une série de moments où on peut se retrouver et donc avoir l'intensité de ces liens-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de visiter des luttes dont on pourrait considérer qu'elles sont très loin de l'altermondialisme. Prenons les révolutions arabes, ce qui est quelque chose qui nous occupe à l'évidence tous et toutes de façon importante, vu l'ampleur de ce qui s'y passe, géographiquement le caractère proche de ces luttes et leur impact politique très fort dans le monde entier, en particulier autour de la Méditerranée. Bon. À première vue, on pourrait se dire qu'on est très loin de l'altermondialisme. Hein. C'est ni Porto Alegre, ni Mumbai, ni Gênes. On est vraiment dans des pays qui, à cause du poids des dictatures, du fait qu'on n'était pas au cœur d'expériences sociales comme celle de la démocratie participative, sont assez loin, ou en tout cas peuvent être vécus comme assez loin de l'altermondialisme. On peut lire, et ce qui est vrai, hein, bon, on peut lire ce qui s'y passe et le fait qu'il y ait une espèce de vague de mobilisation comme quelque chose d'assez comparable à ce qu'on a connu en 1989 après l'effondrement de l'Union soviétique dans toute l'Europe de l'Est ou même en Chine avec Tiananmen. À l'autre bord, ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale avec la suite des révolutions après celle d'octobre 17. On peut aussi faire l'analogie avec mai 68, un mouvement mondial, ou la révolution européenne de 1848. C'est-à-dire des choses qui ont eu lieu à des moments où on ne parlait pas encore de militantisme transnational. Bon, on peut penser ça et ce n'est pas faux en soi. Ceci dit, il y a des éléments intéressants qui méritent d'être décortiqués. J'en donnerai deux. Le premier, le fait qu'on ait une articulation tout à fait nouvelle entre la production d'informations par des individus, hein, bon, toute la logique des réseaux sociaux ou tout simplement le fait que les gens filment leur quotidien, les manifestations ou la répression avec un téléphone mobile et le renvoient à d'autres. Hein, ce qu'on avait déjà vu un peu dans le film tout à l'heure, hein, cette espèce de militantisme activiste, hein, de journalisme activiste. Hein, bon, et derrière, une articulation assez nouvelle entre ce journalisme d'individus et des nouveaux médias qui, en particulier dans le monde arabe, sont des médias transnationaux. Je pense à Al Jazeera qui a joué un rôle de haut-parleur absolument déterminant pour faire communiquer les différentes luttes, les expériences, les façons de faire, etc., en s'appuyant sur cette production massive par les individus de contenu, en particulier audiovisuel, vidéo et tout autre. Donc là, il y a déjà quelque chose. Alors là, on n'est pas du tout dans le militantisme au sens traditionnel du terme. On est dans l'articulation entre des choses qui viennent des individus et des grands médias très traditionnels, très top-down, mais qui sont internationaux. hein, qui est Al Jazeera. Bon, c'est Qatar, à l'origine, ça vient du Qatar, mais fondamentalement, c'est un média arabe, hein, ce n'est pas un média qatari, loin de là, et ça a joué un rôle absolument clé dans les mobilisations. Premier problème qui montre en tout cas qu'il y a quelque chose qui dépasse simplement la lutte nationale locale, ou le fait qu'on fait comme les copains, comme en 68 ou en 1848, en partant en manifestation, comme on pouvait le faire d'un pays à l'autre. Et puis, deuxième chose qui moi, m'intéresse, c'est le fait que même si le Caire et Casablanca, ce n'est pas Porto Alegre, l'altermondialisme y existe, au sens des militants qui se raccrochent et qui se réfèrent aux forums sociaux mondiaux. Pour vous donner un exemple, étaient présents au Caire 1000 militants marocains, plusieurs centaines de militants tunisiens, très peu d'Égyptiens, parce que c'était en pleine révolution, donc ils avaient autre chose à faire, ils étaient place Tahrir, et ils n'allaient évidemment pas se déplacer à Dakar. Il y en a un qui est venu pour témoigner et organiser les liens, mais il y a beaucoup plus d'irrigation et d'articulation qu'on ne le pense spontanément. Alors, ce n'est pas forcément un lien direct au sens où les dirigeants, et je reviendrai après sur le mot dirigeant, de ces mobilisations seraient présents à Dakar, organisent à Dakar avec nous. Ça, c'est du fantasme. Hein. C'est évidemment pas comme ça que les choses se passent. Mais il y a de la capillarité. Hein. Il y a du lien. Et on n'est pas dans des espaces totalement déconnectés, ce qui serait le cas s'il y avait demain un grand mouvement social en Ouzbékistan. Là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de capillarité. Par contre, avec le monde arabe, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà, ça c'est la première des idées que je voulais un petit peu, enfin les deux idées que je voulais un petit peu développer. Toujours dans l'idée que les luttes internationales, ou plutôt les thématiques portées sur le plan international peuvent avoir un impact fort, je voudrais dire un mot, et je fais une petite aparté là-dessus, sur le mouvement indigène et son impact, hein, parce que j'ai piqué un peu au vol ce que tu disais. Je ne sais pas du tout quels étaient les termes de la critique portée par les militants, par le monde diplomatique, mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que s'il y a eu évidemment une vision un peu mythique de gens du Nord, pensant que c'est une espèce de révolution socialiste sui generis en Bolivie, tout ça c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais ce qui, moi, m'a intéressé, et ça, c'est un des produits de cette transnationalisation des luttes, c'est le fait que des questions totalement novatrices viennent percuter nos façons de penser et nous obligent à penser à côté de nos voies traditionnelles. Hein, bon. Prenez l'exemple des Boliviens et de toute leur lutte sur ce qu'ils appellent la Pachamama. Alors, on a une façon assez simple de le prendre, c'est de considérer, bon, ben, on a une affaire religieuse comme une autre, on s'est débarrassé du christianisme chez nous, en tout cas dans la sphère militante, on ne va pas s'embarquer avec Allah côté islam ou la Pachamama côté Bolivie. Bon, affaire simple. Bon, et là, l'affaire est réglée. Dans l'attaque, il y a des gens qui ont répondu comme ça. Bon, c'est une façon assez simple de résoudre le problème, mais à mon avis, qui n'est pas une façon de résoudre le problème. Parce que la question posée, oublions la religiosité, qui est tout à fait secondaire pour moi, est d'une toute autre nature. Hein. Bon, il y a différents moyens ou différentes façons de représenter l'articulation entre l'homme, l'humanité, la personne humaine et la nature. Hein. Bon, Philippe Descola en a identifié quatre. Hein. Je ne vais pas vous faire un long topo là-dessus. Je vous conseille d'aller voir l'expo du musée Branly qui est passionnante sur la fabrique des images, sur ces différentes articulations possibles entre homme et nature. Mais nous, occidentaux, on a une façon très particulière d'articuler homme et nature, c'est de considérer depuis Descartes, hein, c'est donc vraiment le 17e, que l'homme est séparé par construction même de la nature et que parce que nous pensons, nous sommes, et que c'est à partir de là qu'on va avoir une vision spécifique, donc d'une humanité au-dessus du reste, une vision très transcendante et séparée de l'humanité qui sera le seul acteur capable de penser les droits, etc. etc. En Bolivie, les choses ne se voient pas du tout comme ça. Hein, et tous ceux qui sont ceux qui pensent la Pachamama ne comprennent absolument pas la façon dont nous avons de concevoir ce rapport homme-nature. Pour eux, il y a une équivalence de droit, une équivalence d'existence. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes formes d'existence. Bon. Et donc, ça les amenait à considérer qu'il fallait se battre, et ils sont en train de se battre pour ça, pour défendre à l'ONU, aux Nations Unies, une quatrième génération de droits fondamentaux. Hein. Les juristes considèrent qu'il y a trois générations jusqu'à présent. La première, c'est les droits de type démocratique, hein, ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française ou du Bill of Rights anglais. La deuxième génération, c'est celle qui émerge avec le socialisme et les mouvements ouvriers du 19e et qui est cristallisée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui sont tous les droits positifs, hein, les droits au travail, les droits au logement, les droits à bénéficier de soins de santé, de qualité, etc. Il y a une troisième génération un peu vague qui est le droit de vivre dans un environnement de qualité, le droit de vivre en paix, en sécurité. Bon, oubliez-la, elle n'est pas la plus intéressante. Mais ce que disent les Boliviens, c'est qu'ils disent qu'il y a une quatrième façon de voir les choses. C'est de considérer que les droits ne sont pas anthropocentrés. Ils ne sont pas forcément centré sur l'homme, et que les êtres animés comme les êtres inanimés peuvent avoir des droits. Bon, et là, je vous assure que c'est une façon de voir les choses très, très différente. Alors, après, ça ouvre un champ de problèmes que je ne vais pas résoudre maintenant. Mais en tout cas, pour comprendre que grâce à ce type de questionnement, on est obligé à penser à côté de nos pas traditionnels, à côté de nos schémas conceptuels traditionnels. Rien que ça est intéressant. Et ça a été rendu possible parce que dans une enceinte comme celle du mouvement pour la justice climatique, on se retrouve avec des Boliviens qui nous disent « Est-ce que vous êtes d'accord pour défendre avec nous à l'ONU cette idée qu'il faut une quatrième génération de droits fondamentaux qui sera une génération de droits dans laquelle tous les êtres animés ou inanimés auront des droits fondamentaux ?» Voilà. Question que je vous lance comme ça, qui pose toute une série de problèmes, hein, parce que la question évidemment derrière, c'est qui va les défendre, ces droits, hein, qui va les incarner, hein, d'une certaine façon. Donc, les questions sont ouvertes, hein, je ne pensais pas que l'affaire est simple. Mais en tout cas, le fait qu'on puisse penser à côté de nos schémas traditionnels est en soi un pas en avant, à mon avis, considérable. Ça oblige à positionner différemment les questionnements, les réponses, etc. Voilà en gros la première chose que je voulais dire. Pour rester dans les 10 minutes, je vais simplement pointer deux problèmes. Un que je vais développer un tout petit peu et l'autre, je vais simplement l'annoncer. On y reviendra au besoin dans la discussion ultérieure. Bon, si il y a un militantisme transnational, il y a aussi des questions qui se posent à nous tous et qui, pour des expériences comme les nôtres en France, sont vraiment des expériences compliquées. Je m'explique en deux mots. On a vécu un mouvement social important il y a quelques mois. Hein, en septembre-octobre, nous étions les millions dans la rue, à Poitiers comme à Paris et ailleurs. Bon, ce mouvement est la preuve, une fois de plus, que la combativité dans ce pays est très forte. Hein, bon, et que même si nous n'avons pas gagné sur la question des retraites, il y a une capacité du peuple de ce pays de se mettre debout et de dire on arrête et on met des coups d'arrêt aux politiques néolibérales qui est considérable, et ça depuis une quinzaine d'années, depuis au moins 95, avec tous les mouvements que tu as rappelés. Bon, parfait. Ce mouvement a aussi montré une très grande radicalité, hein, que les résultats électoraux depuis une quinzaine d'années montrent. Hein, bon, les forces à gauche de la social-démocratie représentent depuis 15 ans maintenant entre 15 et 20% des voix à peu près toutes les élections. Hein, bon, donc alors après, est-ce qu'il faut les additionner? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ce n'est pas l'objet du tout. Mais enfin, en tout cas, il y a une radicalité. Par contre, ce qui est en train de baisser régulièrement, c'est la capacité de nous organiser sur la durée. Hein, bon, c'est-à-dire que les syndicats vieillissent, attaques vieillies. Hein, la critique, je crois, en a été faite par Isabelle Sommier, et factuellement, c'est tout à fait juste. Hein, c'est un des problèmes d'attaque, mais pas que d'attaque. Hein, je veux dire, moi qui suis à Sud, qui suis un des syndicats les plus jeunes, je ne parle pas de Sud étudiants. Hein, Sud, moi, je suis au PTT, hein, je suis à France Télécom. Hein, bon, donc, on est un des syndicats les plus jeunes qui recueille le plus de voix de jeunes, mais je vous assure que les militants, ils ont plutôt mon âge que le tien. Hein, je veux dire, bon, on est quand même, et c'est encore plus vrai pour la CGT, FO, la CFDT. Donc, il y a un vrai problème de vieillissement et d'affaiblissement structurel des organisations. Et les mouvements sociaux de ces dernières années ne renforcent en rien les organisations. Si c'était seulement pour balayer les vieilles, hein, en disant « Allez, FO, c'est fini » ou même la CGT, c'est fini, on fait du Sud ou autre chose, très bien. Mais ce n'est pas le cas. Hein, le renforcement de certains ne répond même pas à l'affaiblissement des autres. Hein. Bon, donc on est plutôt dans un jeu à somme négative et même pas à somme nulle. Hein. Et même si on additionne le mouvement associatif, les nouvelles, et je ne parle pas des partis politiques. Hein, bon, donc on a un affaiblissement global. Bon, et donc la question posée, c'est comment militer, être actif, transmettre d'une génération à l'autre, échanger d'une génération à l'autre, d'une expérience sociale à l'autre, et répondre aux questions que tu posais, hein, c'est justement quel lien entre mouvement ouvrier, salarié, chômeur, immigré, sans papier, etc. Comment organiser les articulations et les passages et les compréhensions de l'un à l'autre sans organisation ou avec des organisations très temporaires, très éphémères. Là, il y a une question centrale, hein, sur laquelle on pourra peut-être revenir, mais qu'on retrouve là partout, hein, et qui se traduit sur le plan des mots d'ordre, hein, par des choses très différentes de ce que nos anciens pouvaient dire. Hein. En 17, ils disaient tout le pouvoir aux soviets, en tout cas dans un certain nombre de pays. Maintenant, ils disent que c'est vayan todos ou dégage. Hein. Bon, ce qui n'est pas forcément mauvais. J'ai rien contre dégage ou que c'est vayan todos. Mais ça montre bien à quel point on est loin d'une formule dans laquelle on aurait une construction politique qui permettrait de remplacer ceux qu'on veut voir dégager ou qu'on veut voir partir au plus vite. Donc là, on a un problème. Et le dernier, mais je fais que le pointer, je ne vais évidemment pas l'expliquer là, j'y reviendrai au besoin tout à l'heure, c'est de voir ce en quoi le mouvement altermondialiste nous permet justement de repenser de la politique, de repenser une façon post-capitaliste de voir le monde. Et là, il y a des choses à dire, hein, mais je le ferai dans la discussion, mais je vais m'arrêter là pour les 10 premières minutes. Merci.
Donc Aurélien Bernier.
Bonjour et bravo de vous être enfermé dans une salle obscure alors qu'il fait si beau dehors. Oui, je suis Aurélien Bernier et je suis porte-parole du mouvement politique d'éducation populaire qui est un petit mouvement et qui, comme son nom l'indique, marche sur deux jambes, la jambe de l'éducation populaire, et on partage ça évidemment avec ATTAC, et un pied qu'on essaye d'aventurer, parce que c'est extrêmement difficile, dans le champ politique. Et si on essaye de s'aventurer dans le champ politique, en créant cette structure hybride entre un parti politique et un mouvement d'éducation populaire, eh bien c'est parce qu'on fait un constat qui est que le mouvement altermondialiste échoue à transférer ses propositions, à faire appliquer ses propositions dans l'espace politique. et que ce mouvement altermondialiste a eu une période de gloire, où même les médias et même les médias dominants s'intéressaient à ce qui se passait dans le mouvement altermondialiste, que ça a duré un certain nombre d'années et que, eh bien, au bout d'une dizaine d'années, où ce mouvement faisait toujours une critique très juste de la mondialisation, du capitalisme, des dégâts sociaux et environnementaux de cette stratégie des grandes puissances économiques, eh bien, au bout d'un certain temps, ce constat ne suffisait plus. Et à mon sens, si on a, je ne vais pas dire un délitement, mais un affaiblissement du mouvement altermondialiste, eh bien, c'est parce qu'on bute sur ce passage à l'action et à l'action concrète pour mettre à bas le capitalisme néolibéral. Et je crois que la première des choses à faire, c'est de définir sérieusement ce qu'est la mondialisation. C'est un mot qui est mis à toutes les sauces, mais la mondialisation est avant tout une construction politique qui a été théorisée par un certain nombre d'intellectuels ultralibéraux, qui a été mis en œuvre concrètement à partir des années 70. Alors évidemment, ça s'est construit progressivement. Et puis à partir du moment où on a eu l'effondrement du bloc de l'Est, là on a pu y aller joyeusement et on est rentré véritablement dans l'ultralibéralisme, mais qui n'était que l'application du projet des grandes puissances économiques et qui visait un objectif très simple, qui était de transférer le pouvoir du peuple, des États, des démocraties aux multinationales. Et le moyen qui a été utilisé pour transférer ce pouvoir du peuple, des États aux multinationales, c'est une stratégie qui s'appelle le libre-échange. Et pendant un certain nombre d'années, de décennies, eh bien, on s'est employé à déréguler les échanges commerciaux, à déréglementer, et en fait, eh bien, à permettre aux grandes multinationales d'aller produire dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, évidemment sans améliorer quoi que ce soit au quotidien des populations dans ces pays à bas coût de main-d'œuvre, de produire de plus en plus, d'appliquer une logique tout à fait productiviste, sans tenir absolument aucun compte de considérations environnementales, d'épuisement des ressources, et eh bien, de vendre la production à peu près partout sur la planète sans avoir à subir de taxes, de réglementations, et évidemment en maximisant les bénéfices. Et aujourd'hui, à présent que le libre-échange est la doctrine à laquelle tous les États doivent se plier, libre-échange qui est évidemment véhiculé par l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi par des structures comme l'Union européenne, eh bien, les États ont abdiqué tout pouvoir et toute capacité à réguler l'économie. Et donc aujourd'hui, quand on se retrouve dans la crise européenne dans laquelle on est, eh bien, à part faire plaisir au marché et à part adopter des politiques de rigueur qui vont permettre de satisfaire les marchés, eh bien, on n'a plus aucune possibilité, aucune marge de manœuvre au niveau politique. Et donc c'est bien pour ça que la question qui est posée par le colloque est essentielle. La mondialisation a été faite et aujourd'hui, si on veut récupérer du pouvoir politique, eh bien, il faut la défaire. Alors, pas la défaire de façon abstraite, mais la défaire en reprenant le pouvoir qui a été transféré aux multinationales grâce à la stratégie du libre-échange et en la redonnant au peuple. Et ce qui, selon nous, passe inévitablement par une échelle qui a été honni à la fois par les écologistes et par une partie du mouvement altermondialiste, qui est l'État. Alors pourquoi l'État ? Eh bien parce que on peut rêver de réformer l'Organisation mondiale du commerce, de réformer le Fonds monétaire international, de réformer l'Union européenne, mais aujourd'hui, le rapport de force rend cette réforme concrètement impossible, ou alors dans des délais qui sont absolument pas compatibles avec, à mon avis, ce qu'on veut tous faire, c'est-à-dire sortir rapidement du capitalisme néolibéral. Donc peut-être que si on patiente 50, 60, 70 ans, on arrivera à réformer l'OMC. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, je n'ai pas forcément envie d'attendre 50, 60 ou 70 ans. Et donc, si le mouvement altermondialiste, aujourd'hui, s'enlise dans un constat, dans une dénonciation de la mondialisation et n'arrive pas à passer à l'étape supérieure, eh bien, c'est parce qu'il bute sur les propositions concrètes pour démondialiser l'économie. Et ces propositions concrètes, elles sont très simples à énoncer, mais elles vont extrêmement loin, et c'est là qu'on rentre dans le champ politique. Alors, bon, on peut dire que le mouvement altermondialiste a des problèmes à ce niveau-là, mais ce n'est pas le seul, parce que le mouvement syndical et le mouvement politique ne sont pas plus courageux dès qu'il s'agit de dire comment, concrètement, on peut sortir, excusez-moi du terme, du merdier ultralibéral dans lequel on est, et sortir en 2012, en 2013 ou en 2014, mais pas en 2050 ou en 2100. Et la chape de plomb qui pèse sur ce débat, eh bien, c'est à la fois la question du libre-échange, que très peu d'organisations analysent comme étant la stratégie qui a permis de verrouiller le système et d'empêcher au pouvoir politique de réguler l'économie. Et donc ça veut dire que si on analyse comme ça le libre-échange, eh bien, il faut réfléchir à comment sortir du libre-échange, et que pour sortir du libre-échange, eh bien, il faut envisager de mettre en œuvre des mesures protectionnistes, c'est-à-dire des mesures qui permettent de réguler les échanges internationaux, mais pas un protectionnisme comme on a pu le vivre à certaines époques, un protectionnisme qui permette simplement eh bien, de faire payer aux multinationales qui délocalisent le coût social et environnemental de ces délocalisations, et pour prendre au mot les ultralibéraux, eh bien, d'instaurer une concurrence réellement non faussée. C'est-à-dire que les firmes comme ArcelorMittal, comme Adidas, comme tout un tas de multinationales qu'on connaît bien et qui ont été délocalisées leur production dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, eh bien, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas taxées en fonction de critères sociaux et environnementaux quand on réimporte cette production dans les pays occidentaux. Et puis, le deuxième aspect sur lequel on a un véritable silence de mort et qui verrouille complètement le débat politique aujourd'hui, c'est évidemment la question européenne. Critiquer l'OMC, c'est relativement facile. Dire qu'il faut réformer l'OMC, c'est relativement facile aussi. Dès qu'on parle de la question européenne, on vient sur des aspects un peu sentimentaux où on a pas mal de mouvements, de partis qui expliquent que l'Union européenne aujourd'hui prend des orientations qui ne sont pas les nôtres, mais que malgré tout, eh bien, l'Union européenne est un outil qui permet d'aller vers un rapprochement des peuples, vers un début d'internationalisme. Et on n'analyse pas ce qu'est réellement l'Union européenne, c'est-à-dire encore une fois une construction politique et qui vise à mettre en place l'ultralibéralisme au niveau européen. Et depuis le départ, l'ultralibéralisme est gravé dans les traités. On a beaucoup parlé des orientations ultralibérales au moment du traité constitutionnel européen en 2005, et c'est vrai que on allait encore plus loin dans ces orientations. Mais si vous lisez le traité de Rome, vous avez déjà une allégeance au libre-échange et les fondamentaux portés par les ultralibéraux de l'époque. Et la machine européenne s'est progressivement verrouillée, et notamment du point de vue du droit, puisque dès les années 60, on a commencé à construire un droit européen qui s'imposait aux États, et qu'aujourd'hui, le droit européen est une chape de plomb qui empêcherait un gouvernement de gauche de mettre en place de véritables politiques de gauche. Pour prendre un exemple très connu, la fameuse taxe Tobin pour laquelle on a milité ensemble, eh bien, aujourd'hui, si vous vouliez mettre en place la taxe Tobin au niveau de l'Union européenne, D'une part, elle est contraire à des articles du traité européen, et vous devriez avoir l'unanimité des 27 États membres de l'Union européenne pour mettre en place cet axe Tobin. Alors, si vous arrivez à m'expliquer comment on peut obtenir l'unanimité des 27 États membres pour mettre en place ce type de réforme, il faut bien voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 27 États membres soient gouvernés, pas par les sociaux-démocrates qui ont eu une très large majorité dans les années passées au niveau des États européens et qui ont mené des politiques libérales tout pareilles, mais il faudrait une gauche radicale qui arrive au pouvoir dans les 27 États de l'Union européenne pour mettre en place une malheureuse taxe Tobin. Alors, je ne vous parle pas de mettre en place un protectionnisme écologique et social, ou alors de prendre des mesures qui viseraient à asphyxier la finance internationale comme on le souhaite au MPEP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que tant que le mouvement altermondialiste, tant que les mouvements politiques, tant que la gauche de gauche n'assumera pas le fait de désobéir à l'Union européenne, eh bien, on restera dans l'incantation. Et pour ce qui est des mouvements politiques, on ira porter des programmes qui seront tout à fait sympathiques, où on parlera de renforcer les services publics, de taxer les capitaux, d'interdire un certain nombre de pratiques comme les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, etc. Des choses avec lesquelles on est totalement d'accord, mais qui seront strictement impossibles à mettre en place, parce que le droit national est soumis au droit communautaire qui interdit la moindre de ces mesures d'opposition à l'ultralibéralisme. Et donc, si on n'a pas cette, en première ligne des programmes politiques, affiché noir sur blanc cette revendication de la désobéissance à l'Union européenne, eh bien, vous pouvez jeter l'intégralité des programmes politiques de gauche. Et vous pouvez jeter, malheureusement, la quasi-totalité des propositions d'attaque, la quasi-totalité des propositions de Via Campesina, de tous les mouvements avec lesquels on travaille. Et je crois qu'on est aujourd'hui à un tournant, puisqu'on a fait campagne pendant des années pour expliquer ce qu'était la mondialisation libérale, qu'on a fait campagne, et une campagne victorieuse, pour expliquer ce qu'était l'eurolibéralisme et le traité constitutionnel européen, qu'on a gagné le rejet de ce traité ultralibéral, et que la prochaine étape, eh bien, c'est de dire comment on va pouvoir concrètement, peut-être en 2012, si on a un gouvernement de gauche radicale qui arrive au pouvoir en France, eh bien, mettre en place des politiques de gauche. Et c'est ce débat de la désobéissance européenne, c'est ce débat de la sortie du libre-échange qu'il faut mettre sur la table, et qu'il faut mettre sur la table pas dans 6 mois, pas dans 2 ans, mais dès maintenant, pour qu'on ait, pour les échéances de 2012, un débat politique qui ait un minimum de sens et qui fasse que les gens se réinvestissent dans le champ politique et retournent voter.
Merci. Camille Taffer.
Merci. Oui, d'accord. Donc, pour prolonger dans l'intervention précédente et pour rebondir sur cette intervention, c'est vrai qu'actuellement, on est ces dernières années dans une situation assez paradoxale, c'est-à-dire on est dans une crise mondiale financière, économique, qui est quand même très forte, qui est historique au cours de ce dernier siècle. Et pour autant, paradoxalement, par rapport à ce que notamment tu disais, Christophe, en termes de mouvements de contestataires au niveau mondial, on n'est pas dans une situation d'apogée de l'altermondialisme, mais bon, pour autant, on sait très bien que ça fonctionne aussi par cycle et que c'est pas parce qu'il y a une période un peu difficile que pour autant que ça peut pas rebondir. Mais juste, pour mon propos, je vais m'attarder sur plusieurs points. Le premier, sur la question économique, sur la mondialisation, sa caractérisation, etc., au niveau économique, et par la même occasion, pour rebondir à l'intervention d'Aurélien, je pense que si on s'attarde sur cette question économique, moi, je ne pense pas que la solution serait vers un retour vers le protectionnisme, parce que même historiquement, on l'a bien vu dans la crise des années 29, la question du protectionnisme, ce n'est pas ça qui a permis une solution, une sortie de crise à la crise de 29, pas plus qu'aujourd'hui, c'est appliquer des mesures protectionnistes, fussent-elles au niveau européen, pour essayer de contrecarrer l'émergence de pays d'autres continents, parce que ça, on sait aussi que c'est une forme de dumping, c'est une manière c'est une solution pour en fait passer du, enfin, des solutions des tarifs douaniers, enfin, du protectionnisme à travers les tarifs douaniers qui sont appliqués, à une autre solution, bah, typiquement du protectionnisme sur des critères sociaux, alors que enfin, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on résout la question, et ce n'est pas comme ça qu'on empêche aussi, d'une certaine manière, à ces pays-là d'émerger, de se développer aussi. Parce que, enfin, à un moment donné, si ces pays commercent, si ces pays participent au libre-échange, enfin, à la mondialisation, ce n'est pas pour autant, certes, il y a des problèmes hein, économiques, sociaux, environnementaux dans ces pays-là, mais je ne pense pas que c'est en empêchant ces pays du Sud, ces pays en voie de développement, ces pays émergents, d'échanger, que pour autant on réglera le problème de la mondialisation libérale et de la mondialisation capitaliste. Enfin, capitaliste. Je ne pense pas que c'est une solution. Et au contraire, ça serait plus source de conflits, de tensions au niveau mondial. Il n'y a aucune raison qu'on applique des principes que nous-mêmes, on ne s'applique pas. Donc voilà, donc, je pense que si on doit taxer, c'est plus au niveau interne, au niveau des pays capitalistes eux-mêmes. Enfin, typiquement, la différence de taxation entre le travail, ce qu'on voit bien, par exemple, si on prend l'exemple français, entre la taxation du travail et la taxation du capital, des revenus du travail, des revenus du travail et des revenus du capital, l'inégalité de taxation, c'est plus par ce biais-là, à mon avis, qu'on limitera ce type de capitalisme sauvage, de délocalisation, plutôt qu'en empêchant les pays émergents de se développer, d'un point de vue économique. Je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, si on prend la situation française, hein, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe au Maghreb, les révolutions au Maghreb, et même si on regarde dans la corne de l'Afrique de l'Ouest, typiquement avec la Côte d'Ivoire, dans une situation de crise économique, on voit bien à quel point les pays riches, les pays développés, sont prêts à tous les moyens pour garantir leur situation économique et leur suprématie économique. On voit bien que la France, aujourd'hui, quasiment chaque jour, elle est en guerre avec un nouveau pays, en Côte d'Ivoire prétendument pour défendre les droits de l'homme. On le voit bien en Libye aussi, mais qu'avant tout, c'est des enjeux économiques. Et c'est plutôt les relents de la France-Afrique qui renaissent de leurs cendres, plus qu'autre chose, plus que des volontés démocratiques ou des volontés du mieux vivre de ces peuples-là. Donc je pense que c'est plus ces questions-là, à mon avis, qui se posent d'un point de vue économique, c'est-à-dire dans cette mondialisation libérale, dans quelle mesure à la fois on peut justement trouver une alternative, et comme le disait Christophe, avec notamment la situation géopolitique, la chute du mur de Berlin, la difficulté aujourd'hui d'avoir une alternative économique, politique crédible à l'ordre mondial qu'on a actuellement. C'est plus à ce niveau-là qu'à mon avis, il faut pousser la réflexion plutôt que de trouver des solutions, certes, qui peuvent paraître prometteuses, positives, mais qui finalement posent plus de problèmes qu'autre chose. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'on a pas mal, à travers ces journées, parler effectivement des questions économiques, de la mondialisation capitaliste. Mais je pense qu'aussi, il y a aussi, comme tu le disais, Christophe, à travers l'exemple bolivien, mais il y a aussi des questions civilisationnelles, culturelles qu'il faut se poser. Notamment après le 11 septembre, on est quand même dans une situation géopolitique internationale de choc. Enfin, en tout cas, la théorie du choc des civilisations, elle est parlante pour un certain nombre d'États, et notamment des États les plus puissants, impérialistes, aujourd'hui. On le voit bien à travers la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la manière, y compris même dans les débats intérieurs en France, la manière dont on perçoit un certain nombre de la population, typiquement la population qui prétendument, je dis bien prétendument, serait musulmane, hein, avec la simulation qu'on peut faire entre toute personne d'origine étrangère maghrébine et forcément musulmane. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là qui est aussi prégnante, importante, qu'il faut se poser. Parce que l'alternative, à travers le débat qu'on a, cette table ronde sur le nouvel internationalisme, la manière dont on perçoit un nouvel ordre et comment on peut résister à cet ordre mondial, et aussi quelle alternative on peut dessiner, je pense que c'est à la fois une question économique, comment on peut justement contrecarrer les politiques néolibérales, les politiques capitalistes, mais c'est aussi une question civilisationnelle, dans quelle mesure on est capable de construire un autre monde, mais qui ne soit pas un autre monde un peu nombriliste, un peu ethnocentrique, où on a, d'une certaine manière, on conçoit le nouveau monde à travers son petit nombril d'occidental et ses valeurs occidentales. Donc ça aussi, c'est une question qui, à mon avis, est tout aussi importante à se poser. Et c'est là-dessus que je souhaitais, en fait, faire la deuxième remarque. Après, juste, pour conclure, enfin, à mon avis, c'est sur ces deux voies-là, à mon avis, sur lesquelles il faut s'interroger, à la fois l'alternative économique, ce que je disais, la question du paradigme, enfin, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a la question des forces sociales, la capacité de résister, mais c'est aussi le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu orphelin d'un point de vue idéologique face à ce dogme libéral capitaliste et aussi cette capacité aussi à concevoir le mieux vivre ensemble au niveau planétaire et aussi du coup à prendre en compte les différentes cultures, les différentes langues, enfin les civilisations. Et pour répondre à la question, je ne pense pas que c'est avant tout une question d'État-nation, c'est avant tout cette approche-là, cette capacité à concevoir le monde autrement et de manière plus plurielle, diverse.
Eh bien, sans même avoir évoqué le directeur du Fonds monétaire international, nous voici en pleine joute politique et on est passé directement de la multitude des mouvements sociaux à l'unicité de l'alternative. Et comme ça, au moins, on est dans le vif du sujet. Ce que ça ne vous empêche pas quand même de revenir sur cette question de la structuration, des mobilisations, etc. Vous pouvez revenir aux prémices du débat ou aller directement vers ses conclusions. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de... On va tenter de ne pas faire la salle et un retour à l'ensemble de la tribune pour que ce soit plus dynamique, tout en préservant une égalité de temps de participation aux invités, de faire en sorte que leurs réactions puissent s'intercaler dans les prises de parole des uns et des autres. Oui, mais ça manque de femmes, la tribune.
Et moi, je voudrais parler de ce qu'a dit Aurélien Bernier par rapport à l'Europe. Quand il dit qu'on ne peut faire une politique en désobéissant à l'Union européenne, oui, parce que c'est de toute façon, elle est verrouillée pour que ce soit hyper libéral. C'est une nasse, l'Union européenne. Donc, de toute façon, s'il faut en sortir, il faut casser la nasse. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais après, c'est où est l'échelle la plus efficace pour agir? Alors lui, il défend l'idée que c'est au niveau de l'État-nation qu'il y aurait une échelle qui permettrait une résistance et une efficacité pour lutter contre le libéralisme, contre le capitalisme, etc. Moi, ça me rappelle des réflexions que j'entendais il y a quelques années. J'ai beaucoup milité, puis je continue, sur les services publics. On avait essayé dans la région de faire des collectifs services publics qui avaient essayé de regrouper différents secteurs. Il y avait les hôpitaux, les municipaux, les machins, etc. Et à chaque fois, on butait sur quelque chose, c'est que chacun pensait que ce qui lui est arrivé lui était propre. Et que ce qui arrivait à côté, c'était moins difficile, c'était bien différent, etc. Bon, chemin faisant, au bout de 10 ans, 15 ans, tout le monde est dans la merde et tout le monde le sait. Bon, c'est un peu tard, mais c'est bien que ça arrive, mais c'est un peu tard quand même. Donc là, tout le monde a vu que la RGPP, c'était pour tout le monde. Tout le monde a vu que la marchandisation des services publics, c'était pour tout le monde. C'était pas que pour EDF ou que pour l'hôpital, etc. Bon, malheureusement, c'est à force de prendre des coups qu'on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui tape dessus. Et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça que ça arrive en général. Et là où je voudrais en venir, c'est que cette image-là de cette prise de conscience à force de prendre des coups, elle se fait aussi même au niveau des résistances à la mondialisation. C'est-à-dire que ce qui unifie, c'est pas seulement le discours qu'on doit avoir, et je pense qu'on doit avoir un discours, mais c'est aussi notre ennemi. C'est-à-dire notre ennemi, il est mondialisé. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'atome, au niveau de nucléaire, etc., il n'y a pas à choisir le niveau dans lequel il faut intervenir. Il faut intervenir au niveau mondial. Alors, intervenir au niveau mondial, ça ne veut pas dire à la place de le niveau national. Par exemple, nous, en France, on est vraiment les champions de la connerie nucléaire. Et donc, on devrait être, et on en est loin, être les champions pour être contre les centrales nucléaires et contre la production nucléaire. Mais il n'empêche que ce qui arrive au Japon, tout le monde a compris que ça touchera le monde entier. Maintenant, nous sommes, de fait, parce que notre ennemi est comme ça, parce que l'économie est mondialisée, nous sommes sur une petite planète. Et maintenant, je pense que la conception, les écologistes ont beaucoup défendu ça, et maintenant, tout le monde le sait, nous sommes sur une petite planète, et donc, de toute façon, les solutions sur l'atome, mais aussi sur le réchauffement climatique, etc., elles seront mondiales, ou alors on y passera. C'est assez clair là-dessus. Ensuite, par rapport à quelle échelle on doit lutter. Moi, je crois que l'échelle, il ne faut pas la fixer à l'État-nation, mais il ne faut pas la fixer non plus directement au niveau mondial. Il faut voir où elle se positionne. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'Égypte, au niveau de la Tunisie, etc., je pense que la France est un pays méditerranéen, en grande partie. enfin c'est un pays à double aspect, mais un aspect méditerranéen. Il faut absolument qu'on construise des liens autour de la Méditerranée par rapport à ce qui se passe en Tunisie, par rapport à ce qui se passe en Égypte. Si on regarde un petit peu l'auto-organisation qu'il y a eu pour foutre tous les salopards dehors en Égypte et en Tunisie, le courage qu'il y a eu, les années de militantisme, ça fait bien des années qu'ils se font massacrer, je pense que nous, en tant que Français, on a à aller voir là-bas et voir un petit peu l'auto-organisation qui est mise en place et voir aussi des choses qui sont très anciennes, qu'on ne discute plus depuis longtemps, et qui sont les structures de double pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui est légitime, et en face de ça, il y a un pouvoir de la rue qui n'est pas encore structuré. Ils en sont là-dessus pour l'instant. Hein. Il y a quelque chose comme ça, un entre-deux. C'est une situation classique au niveau des marxistes. Mais il n'empêche que ces situations-là me semblent plus fécondes à étudier que de savoir les frontières qu'il y a entre au nord et le sud de la Méditerranée, entre l'Europe et pas l'Europe. Je pense qu'il faut qu'on étudie les frontières internes à chaque État, parce que ce qui va découler de l'auto-organisation en Tunisie et en Égypte, ça nous servira à nous pour poser des problèmes dans notre pays, en Europe et plus globalement. Je reviens à ce que tu disais par rapport à une piste que tu lançais par rapport à l'histoire du maintien dans la durée et du vieillissement. Comme tout le monde voit, mes cheveux, ça fait quelques années que je milite, beaucoup d'années que je milite. Et je vois aussi, comme toi, que le renouvellement des générations ne se fait pas. Il y a le problème du passage du témoin qui se fait difficilement. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le problème de la délégation de pouvoir qui nous a coulé pendant extrêmement longtemps. C'est-à-dire, par exemple, le discours de dire « 2012, on va être sauvé ». Moi, je pense que quel que soit le vainqueur, que ce soit quelqu'un du Parti socialiste, du Front national ou de la droite, on sera baisé, alors plus ou moins, hein, mais on se fera couillonner quand même. Donc, il ne peut pas y avoir de solution strictement à travers les urnes. Ça veut dire que je ne repousse pas les urnes. Je militerai pour un candidat en 2012. Mais ce que je pense qu'il faut poser, c'est la question de la délégation de pouvoir et ce qui se passe en Méditerranée, en Tunisie, en Égypte, ça nous intéresse. Ce qui se passe au Portugal, par exemple, parce que ça va, le Portugal va être, là pour l'instant, c'est au niveau de la crise que c'est sous les feux, mais au niveau de l'auto-organisation, au niveau de la bagarre, ça va être sous les feux de l'actualité aussi. Je pense que c'est plus, il faut plus travailler sur des choses qui sont transnationales, qui sont internationalistes. Moi, je me revendique de l'internationalisme et qu'il faut travailler sur des choses qui se retrouvent dans tous les pays et il faut prendre des expériences de tous les pays pour construire cette capillarité, c'est-à-dire que ce qui se passe en Tunisie et en Égypte, ça vienne chez nous et qu'on ne pense pas qu'on va mettre tous les œufs dans le panier de 2012, quel que soit le candidat qui pourra venir en tête, etc., fût-il un bon orateur à la télévision, etc., je pense qu'il vaut mieux construire les capillarités et prendre les exemples des uns des autres. Et ça se construit non pas dans 60 ans, non pas dans 70 ans, mais ça se construit aujourd'hui. Par exemple, le nucléaire, il y a un meeting lundi prochain, il y a eu un meeting et c'est vrai, il faut dire les choses, à un moment donné il faut arriver sur des choses concrètes, il y a un meeting anti-nucléaire lundi prochain, il va y avoir sans doute des mobilisations par rapport à ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, il y a eu un meeting la semaine dernière, il y a des choses qui sont de l'ordre de la réflexion et il y a des choses qui sont aussi de l'ordre de l'action et ça arrive tous les jours.
Ouais, je vais faire beaucoup plus court déjà je... Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, par ailleurs. Mais donc déjà, je voulais remercier Aurélien d'avoir remis un petit peu d'optimisme et d'utopie positive dans cette assemblée en nous prédisant la possibilité d'une victoire d'un candidat à gauche de la gauche en 2012. Bon, on va militer à ça. On va peut-être s'y mettre dès après la fin du festival. Mais toujours par rapport à Aurélien, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que moi, j'ai aucun problème... en tant que militante, à me dire qu'il faut se battre sur la désobéissance par rapport à l'Union européenne. Je veux dire, j'étais déjà militante au moment de Maastricht. J'ai milité contre Maastricht. On a milité contre le traité constitutionnel européen. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques deux choses, enfin que tu ailles un petit peu plus loin sur cet aspect. C'est-à-dire, je ne vois pas en quoi le fait que l'ensemble de la gauche, comme tu l'as dit, se positionne... Alors déjà... Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que ce ne serait pas le ce ne serait pas le cas. Ce ne serait pas le cas que les organisations à la gauche de la gauche n'auraient pas ce discours-là. Mais indépendamment de ça, en dépassant ce désaccord potentiel, je ne vois pas en quoi le fait que toutes les organisations politiques à gauche de la gauche prennent cet agenda politique, comme on dit, pourrait... serait un potentiel de victoire, déjà première chose, et puis surtout en quoi le fait que cette désobéissance par rapport à l'Union européenne soit reprise par l'ensemble de la gauche susciterait immédiatement un réinvestissement politique des citoyens. Alors là, j'ai encore plus de mal à comprendre ça. Quand on voit ce qui s'est passé justement avec le non au traité constitutionnel européen, la façon dont on s'était pris alors qu'on avait remporté les élections, j'ai du mal à voir comment tu fais ce lien. Et puis alors, pour les trois intervenants et puis pour tout le monde, pour toute la salle, moi j'ai une petite question sur le titre même de notre table ronde. Pourtant, je suis au comité d'organisation du festival, mais est-ce que la question est-ce que la question c'est vraiment vers un nouvel internationalisme, ou est-ce que la question c'est vers un internationalisme victorieux, c'est-à-dire comment on fait pour avoir un internationalisme victorieux?
Pendant que d'autres se préparent à intervenir. Oui. Moi, c'était simplement une réaction par rapport à ce que disait Aurélien, parce que ce qui est intéressant pour mettre un peu en scène le débat, c'est que tu représentes, si tu veux, le courant disons, nationaliste de l'altermondialisme, et qui, à mon avis, pose trois problèmes, ou en tout cas ne répond pas à trois questions. Premier problème, c'est l'analyse de l'État. Il y a une vision très idéale d'un État qui serait en soi l'expression d'une souveraineté populaire, et l'adéquation peuple-État est, à mon avis, une vision extrêmement naïve de ce qu'est un État. Moi, je viens d'une tradition marxiste dans laquelle la phrase de Marx m'avait toujours resté en mémoire, qui était le fait qu'en dernière analyse, l'État, c'était une bande d'hommes en armes qui était là pour défendre l'intérêt de la classe dominante, c'est-à-dire la bourgeoisie, point barre. Alors je pense que c'était aussi un peu simpliste, ou plus exactement, ça correspondait à un moment historique un peu particulier qui était la fin du 19e siècle. Mais même si on considère que l'État est beaucoup plus complexe que cette bande d'hommes en armes défendant les intérêts de nos exploiteurs, et qu'en effet, il y a eu des conquêtes, de la sécurité sociale, l'éducation, toute une série de choses qu'on défend à juste titre, penser que de l'autre côté, on puisse considérer que l'État, c'est simplement le reflet de la volonté populaire, c'est une blague aussi. Hein. Bon, c'est évidemment les deux à la fois. Et donc, il y a un vrai problème sur l'État. Deuxième problème, qui est à mon avis une simplification tout autant que celle sur l'État, c'est l'analyse de la mondialisation. Évidemment que la mondialisation est liée au libre-échange. Et en ça, je partage tout à fait ce que tu dis. Mais ça n'est évidemment pas que cela. Hein. Bon, sinon, les choses seraient beaucoup plus simples. Et en effet, il suffirait de sortir soit de l'Europe, soit du FMI ou de la Banque mondiale pour régler le problème. Bon, si on fouille un peu plus, on s'aperçoit que la mondialisation, c'est un stade, une époque particulière du capitalisme, qui en a connu de nombreuses. Hein. Celle d'avant la mondialisation était souvent appelée le Fordisme, hein, peu importe les discussions sémantiques, c'est pas le débat ici, mais qui correspond en gros au capitalisme industriel assez redistributif qu'on a connu des années 50 aux années 70, mais qui est un stade, une époque du capitalisme dans lequel il y a toute une série de facteurs qui vont jouer. Le libre-échange, ça c'est vrai, le rôle particulier des marchés financiers, une organisation tout à fait différente de l'entreprise avec la montée de tout ce qui a été cercle de qualité, enfin bon, vous voyez tout ce qui s'est passé dans les années 80, et que ce mixte de facteurs explique pourquoi on a quelque chose de beaucoup plus compliqué à défaire que la simple sortie de l'Europe ou du FMI ou de la Banque mondiale, tout simplement parce que cette mutation s'est faite en prenant en compte aussi un certain nombre d'aspirations sociales. Je vous renvoie par exemple aux œuvres de Thomas Coutreau sur l'entreprise néolibérale, ou même de Boltanski sur le nouvel esprit du capitalisme, qui montre à quel point il est compliqué de sortir de là, parce qu'il y a eu une capacité du système à recycler d'une certaine façon un certain nombre des aspirations des années 60-70 pour les reconstruire dans un produit particulier qui est la mondialisation libérale telle qu'on la connaît. Et ça permet de pointer un troisième problème qui est qu'est-ce que pourraient être les alternatives au capitalisme contemporain? Bon, et tel qu'on le comprend dans ce que tu dis, les alternatives au capitalisme contemporain, c'est le socialisme du XXe siècle, c'est-à-dire un socialisme dans lequel c'est l'État qui est chargé de la structure industrielle et productive. Bon, et très franchement, quand on regarde la façon, y compris dans le mouvement altermondialiste, a pu produire des choses concrètes qui montrent qu'on peut sortir pratiquement du capitalisme, on s'aperçoit qu'il y a trois voies intéressantes à explorer. explorer. Une, qui est celle que tu défends et qu'il ne faut pas non plus jeter par-dessus bord. Hein. Je ne suis pas passé du côté de l'anti-étatisme, ce serait évidemment absurde. Donc il y a en effet des choses à défendre dans l'État en le transformant, en le démocratisant. Ce qu'on fait sur les services publics, ce qu'on fait sur toute une série de choses, ça, il faut le faire. Mais l'altermondialisme nous a montré deux autres pistes qui sont tout aussi intéressantes, mais qui rentrent en contradiction avec cette vision étato-centrée, si tu veux, qui est un peu la tienne. Première piste, c'est revenir à ce qu'était la source du socialisme du 19e siècle, c'est-à-dire tout le mouvement coopérativiste, le mouvement de récupération directe, ce que le film a bien montré, hein, bon, avec les tentatives discutables, de gestion des entreprises, de récupération des entreprises comme en Argentine, de réoccupation des zones laissées vides par le capitalisme. Donc il y a toute une source d'inspiration qu'on va retrouver sur les circuits courts avec les paysans, qu'on va retrouver sur toute une série d'expériences sociales, à mon avis très intéressantes, qu'on pratique très souvent dans nos villes et dans nos quartiers. Et puis il y a une troisième source d'inspiration qui est beaucoup plus moderne, hein, ce qui ne veut pas dire que les deux précédentes ne sont pas utiles, hein, bon, mais qui est tout ce que nous a appris le mouvement de la culture libre, le mouvement de l'internet libre, le mouvement du logiciel libre, Wikipédia, les Creative Commons, c'est-à-dire la capacité de produire du commun, c'est-à-dire en fait ce qui était la prévision de Marx, c'est-à-dire que chacun pouvait produire selon ses capacités et consommer selon ses besoins, sans passer par l'État, sans passer par l'échange monétaire et sans passer surtout par la planification qui est l'alpha et l'oméga des politiques économiques de la gauche dans les années du XXe siècle. Bon. Et si on complexifie comme ça les réponses, disons, au capitalisme, on a des choses qui correspondent beaucoup plus aux pratiques sociales qui sont celles, pas simplement du mouvement altermondialiste, mais de nos quotidiens, où on va retrouver des gens qui se battent pour la culture libre, pour le logiciel libre, qui se battent pour développer des choses aussi riches que Wikipédia qui a pu se faire sans et à côté du marché. On a comme ça des pistes qui sont intéressantes en soi, qui posent problème. Hein. Je ne vais pas là vous faire un programme politique achevé, mais qui montrent en tout cas qu'on ne peut pas simplement se contenter de 10 ans qu'en retournant aux années 60, on va résoudre tous les problèmes. Voilà, c'était un peu ça. Moi.
Oui, alors moi je voulais aussi parler de la question de l'État et je trouve ça un petit peu dommage de lui donner moins d'importance qu'il en a, parce qu'aujourd'hui quand on discute avec les personnes d'origine tunisienne ou égyptienne, moi je travaille avec des personnes qui viennent de ces pays à Paris, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont fiers de leur révolution et ils la revendiquent comme tunisienne. Et c'est le pays qui a du sens pour eux, leur État. Et au début, quand ils sont partis, ils se moquaient un petit peu de ceux d'à côté en disant les Égyptiens, on n'est pas sûr qu'ils vont y aller, les Marocains, ça risque pas. Et aujourd'hui, l'échelle où les choses bougent, c'est l'échelle des pays, c'est l'échelle des États. Et la structure mondiale, elle est faite comme ça. Alors il faut rêver d'un monde où tous les États, où on ne sera plus dans des frontières, etc. Mais ce qui bouge aujourd'hui, c'est les pays, et c'est cette échelle-là qui fait avancer les choses. Et c'est à ce niveau-là qu'on commence à travailler. Et puis après, on a l'effet domino. Si les Tunisiens n'étaient pas partis, est-ce qu'au Yémen, il se passerait des choses? Est-ce que sous Kadhafi, ça aurait bougé si vite? Moi, je n'en suis pas du tout certaine. Et c'est les pays, les uns après les autres, qui bougent, qui feront émerger cet internationalisme-là. Mais on ne peut pas le gommer, et ce sera la première étape, à mon avis. Enfin, j'espère, et en plus, on le voit concrètement au niveau de ce qui s'est passé en février et même fin décembre pour les Tunisiens, et c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est un outil qui va nous faire avancer et il est indispensable au jour d'aujourd'hui dans l'état actuel du monde. Enfin, voilà.
Si je peux me permettre de dire un mot, je n'avais pas noté de demande de prise de parole, donc je le fais. Sur l'internationalisme, historiquement, ce n'est pas pour botter en touche et dialectiser les choses pour le plaisir, mais l'internationalisme s'est construit comme la rencontre entre des mouvements d'aspiration nationale qui supposaient des organisations internationales, mais qui se construisaient dans un mouvement fédéraliste à l'échelle des nations et du monde, faisant écho à ce qu'avaient été les nationalités, le printemps des peuples, etc., enfin, au milieu du 19e siècle. Donc cet internationalisme-là intégrait la question de l'État et des mouvements d'émancipation nationaux, mais pour les transcender à partir d'une nouvelle question qui ne s'inscrivait pas dans le cadre des sentiments nationalistes, revanchards, etc., mais qui, au contraire, entendait construire une solidarité internationale des travailleurs. Voilà. Et quand cette notion-là a été, mais là je parle sous le contrôle de nos invités qui sont plus compétents que moi, quand cette question-là a été critiquée, cette notion-là a été critiquée, ça a été pour dire, à travers l'idée de transnationalité ou de multitude à la maigrie, etc., pour dire qu'au fond, il ne suffisait même plus d'articuler ces cadres nationaux ou de les organiser ensemble, ni même encore de créer au nom d'une internationale une espèce de dictature d'un seul pays sur tous les autres, comme c'était le cas dans le Comintern. C'était de dire, dans cette nouvelle vision critique post, c'était de dire, c'est par la multitude organisée, par la simple capillarité, par la simple porosité, sans même de centre organisateur des mouvements. Alors, question qui a pu être posée au mouvement altermondialiste, est-ce que vraiment les mouvements sociaux s'organisent comme ça, ou bien est-ce qu'ils ne s'organisent pas de façon plus structurée et de façon malgré tout fédéraliste, si on ne veut pas que ça soit un sommet qui les organise d'en haut, mais que ça soit vraiment l'expression d'une base un peu organisée. C'est à partir de cette critique-là, de ce qu'avait pu être l'internationalisme prolétarien, qu'a émergé cette notion de transnationalisme, etc. Correspond-elle à quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'inscrit dans ce champ de débat et de critique, me semble-t-il, d'où la question vers un internationalisme, point d'interrogation. Non, pas pour simplement pour alimenter le débat, en tout cas les interventions précédentes ont très bien illustré l'actualité de ce débat et la nécessité de le reprendre dans les conditions actuelles.
Alors, je vais essayer d'apporter moi un regard qui occulte complètement la donne politique, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des questions constructives en termes justement de réponses à des problématiques au niveau du territoire. Et justement, je pense que l'internationalisme, c'est une question mondiale sans en être une vraiment, parce que les réponses, elles, à mon avis, elles peuvent se trouver qu'au niveau du local, justement, du territoire en question. Et donc, c'est à base de mouvements endogènes que peuvent se trouver des réponses. Donc moi, si là, je vais parler de notre territoire à nous, et je pense que la rationalisation des collectivités territoriales, finalement, peut être une opportunité pour qu'on se retrouve tous dans le même bateau et qu'on travaille ensemble pour construire le territoire qui est en concurrence avec la donne économique supérieure, parce que bon, pour moi, il y a deux échelles économiques, hein, mondiale et locale. Et je pense que ça peut être une force justement pour travailler le collectif et que chacun apporte une pierre à l'édifice pour trouver des solutions au niveau du territoire local et notamment sous des formes, comme vous disiez, la coopération, la création de projets en commun, pourquoi pas fédérer effectivement des chômeurs qui ont tous des compétences dans des dynamiques locales. Voilà.
Mais par rapport à... J'écoutais François Faux tout à l'heure, il parlait de la gravité de la situation à Vintimille, où il disait qu'il allait y avoir de plus en plus de Libyens et d'Italiens qui allaient arriver. Et la journaliste demandait, mais comment vous allez faire pour les empêcher d'arriver? Donc il y a quand même quand on parle de xénophobie d'État, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, décomplexé dans les médias d'État, enfin dans les médias liés à l'appareil d'État. Et je crains que ça passe dans un sens commun. Donc, pour un nouvel internationalisme ou un transnationalisme efficace, c'est que ça va être comment affronter directement l'État actuel tel qu'il est occupé par les, il est mis en place par les néolibéraux, qui est transformé. Et je crois qu'on se heurte à quelques difficultés. Et c'est pour ça que je pense que je comprends pas moi la position d'un retour. Enfin, d'un état d'avant les années 70, d'avant la mondialisation, qui aurait été sympathique. C'était un état qui était quand même assez répressif. Des années Pompidou, les flics étaient d'une efficacité importante qui doivent inspirer le gouvernement actuel, mais qui arrive à le dépasser certainement. Mais je pense qu'il y a une dialectique qui doit se faire entre la critique de l'État et tout ce qui permet de les remises en cause des différents pouvoirs aux différents échelons. Ça, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Et il me semble qu'il n'y a pas une critique des concepts qui permet de poser le problème avec des réponses qui vont arriver très vite. Quoi.
Moi, je voudrais dire quelque chose qui peut-être paraîtra un peu, lointain par rapport à la réalité des choses d'aujourd'hui. Mais enfin, quand même, j'ai envie d'en reparler parce que j'avais fait allusion à la question de l'eau l'autre jour, telle qu'elle était posée, par exemple, dans le film sur même la pluie, quoi. Par exemple, quoi. J'y reviens parce que j'avais oublié cela et le film tout à l'heure me l'a rappelé, quoi. Je veux dire, dans les propos qui sont tenus par les Sud-Africains par rapport à la fin de l'apartheid, à un moment donné, il est question effectivement d'eau également, quoi. Disant que l'eau devait être une des choses qui devait être accessible à tous, l'eau, l'électricité, le logement, si je me souviens bien, c'était les trois choses, hein, je crois, qui étaient évoquées, quoi. Et pourquoi ces questions-là me chagrinent un peu, enfin, ou me questionnent un peu, quoi. C'est parce que j'en reviens quand même à cette histoire de la marchandise, quoi. J'ai l'impression que on peut définir le libre-échange, la mondialisation par le libre-échange, pourquoi pas. C'est une hypothèse que je retiens et qui m'intéresse pas mal, quoi. Mais je crois que ce qui s'est passé surtout dans cette mondialisation, quoi, c'est la constitution d'un marché qui prend une dimension tout à fait différente, mais pas que ça. Ce n'est pas qu'un marché qui s'étend en quelque sorte à la planète entière, quoi. Mais c'est aussi que cette forme marchandise dont parlait le vieux barbu, quoi, est en train de se généraliser elle aussi et de pénétrer pas seulement des territoires qu'elle ne pénétrait pas jusque-là, mais jusque chez nous, quoi, je veux dire, dans nos existences, quoi. Je veux dire, cette question de l'eau, pour l'évoquer encore une fois, effectivement, je me rappelle quand l'eau est devenue marchandise dans mon village, quoi. Enfin, dans mon village, où j'habitais mes parents, quoi. Je veux dire, ça a scandalisé tout le monde, quoi. Mais maintenant, c'est devenu une chose habituelle, quoi. Tout le monde paye l'eau, et puis, ma foi, il y en a même qui vont l'acheter dans des bouteilles, dans les supermarchés, quoi. Mais c'est la puissance, ça, de cette forme marchandise, quoi. Et c'est le pire impérialisme, in fine, c'est pas celui des États-Unis, c'est pas celui de la Chine, peut-être, demain, c'est l'impérialisme de la marchandise, quoi. Et je me dis que, quelque part, il faut... ce qui est en jeu dans cette question de alors je ne sais pas si c'est international, transnational, moi j'ai un peu tendance à penser parfois dans des catégories un peu anciennes, quoi. Je suis rattaché à certaines formes d'internationalisme classique, quoi. Alors je ne sais pas si c'est bon, mais il faudrait y réfléchir sans doute, quoi. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi je sens aussi par la position dans laquelle je suis, professionnelle dans laquelle je suis, quoi. Je veux dire, c'est que cette chose qui moi m'a permis de sortir de ce petit village où l'eau est devenue marchandise un jour, quoi. C'est-à-dire, ce qui m'a permis de sortir de ce petit village, c'est bien le savoir, quoi. Et ce savoir-là, à l'époque, il n'était pas marchandise, quoi. Ou en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, quoi. Et ce qui me chagrine et me terrifie, même là j'emploie un mot volontairement fort, quoi. C'est-à-dire, ce qui me terrifie, c'est bien ces phénomènes de marchandisation du savoir, quoi. Je veux dire, on est rentré dans une phase où on donnera un certain nombre de compétences qui ont à voir avec un savoir. On leur apprendra toujours aux enfants à lire, écrire, compter. Et puis j'ai vu l'autre jour là, quelqu'un qui ajoutait pitonner derrière, quoi. Enfin, je veux dire, alors on leur apprendra peut-être quatre choses, une de plus que ce qu'on leur apprenait jusque-là, quoi. Mais le savoir, au-delà de ces quelques compétences-là, va devenir de plus en plus une marchandise. Et ça m'effraie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je veux dire que là, par rapport à ça, dans mon esprit se dessine quelque chose qui est un axe politique possible. Sans pour là vouloir revenir à l'État et à la garantie que l'État, mais peut-être que l'État peut jouer là transitoirement, en tout cas un rôle en tant que garant, c'est bien la question des services publics, quoi. Parce que, je veux dire, je crois que dans cette résistance à la mondialisation et à la généralisation du marché et à cet impérialisme de la marchandise, je crois que quelque chose qui peut être un outil saisissable, enfin quelque chose qui peut, un vecteur d'action aujourd'hui, c'est bien la défense des services publics, que ce soit l'école pour le savoir, pour que le savoir ne soit pas une marchandise, mais aussi d'autres services publics qui ont à voir avec ceux que désignaient les Sud-Africains, quoi. On pourrait y mettre, le train, l'électricité, oui, le logement, la santé, oui, bien sûr, oui, tout à fait, quoi. Bon, j'en oublie sans doute d'autres.
Bonsoir. Moi, je vais faire une. C'est plus une remarque autant qu'une, qu'une question. Je vais faire mon artiste symboliste. Mais je crois qu'il y a une question, parce qu'on parlait de mouvement et de mouvement internationaliste, d'internationalisme. Et je crois qu'il y a une grosse problématique qui, moi, qui m'interroge, et ce que je trouve qu'on retrouvait assez grandement dans le film qu'on a vu tout à l'heure, c'est la production d'esthétique sur les mouvements. Je crois qu'il y a eu un truc où on citait tout à l'heure beaucoup de mouvements, de mouvements historiques qui ont eu une production symbolique et esthétique très fort autour de leur propre mouvement. Et moi, je m'interroge sur la production de figures, de symboles, de mouvements des masses, par exemple sur l'altermondialisme, qui a produit comme figure ou comme symbole ou comme esthétique. Enfin, j'étais un peu peut-être vulgaire, mais à part le zapatiste en foulard, pas grand-chose. Et dont la forme, la production esthétique s'est très vite épuisée. Je le dis aussi bien en termes artistiques, culturels, cinématographiques. Martin disait tout à l'heure, on en reparlait, que l'épuisement d'une création artistique autour de ce mouvement-là. Et je crois que tous les mouvements antérieurs ont en tout cas une production forte, notamment artistique, culturelle, autour de celle-ci, et qui participent et qui fondent aussi des référents culturels, des référents symboliques, et outre la production de savoir et d'intellect pour la constitution d'un mouvement et d'une réflexivité, d'une action de lutte, et peut-être qu'il y a cette question aussi là de production, est-ce qu'il y a une production d'identité esthétique et culturelle à fournir pour construire un mouvement, et du coup qu'est-ce que ça veut dire de produire une production esthétique internationale, sachant que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une multitude culturelle. Voilà, je sais pas trop si c'est très clair, mais voilà.
Je ne vais pas abuser, hein, mais je juste glisser une autre chose par rapport à ce terme de mondialisation, parce que je me demande dans quelle mesure ce terme-là n'est pas aussi largement piégeant. Piégeant pourquoi ? Parce qu'il tend à concevoir les choses dans cette dimension spatiale avant tout, quoi. Or, je pense que la mondialisation n'a pas qu'une dimension spatiale. Et c'est peut-être pour ça que je préférerais, ou que j'ai tendance à préférer, des mots comme globalisation ou totalisation, je ne sais pas. Parce que, justement, cet impérialisme marchand qui m'effraie le plus n'a pas qu'une dimension spatiale, mais bien une dimension qui nous atteint jusque dans des comportements les plus. Et qui médiatise nos rapports aux autres, quoi. Je veux dire, jusque dans les rapports familiaux aujourd'hui, quoi. Et que donc, où on marchandise des choses comme l'assistance ou le soutien aux personnes âgées, enfin des choses de cet ordre-là, par exemple, quoi, pour prendre que cet exemple-là, quoi. Et que donc, peut-être se méfier de ce mot mondialisation, voilà, justement.
Peut-être. Voilà, peut-être un peu de temps pour la tribune.
Oui, pour apporter quelques éléments de réponse. Alors tout d'abord, j'ai pas connu Georges Pompidou, je suis né après. Donc pas longtemps après, hein, je suis né en 1974, je suis né sous Giscard. Ceci dit, je n'ai connu que le libéralisme, à part une petite parenthèse dont j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais plus sérieusement, évidemment, on n'est pas en train d'idéaliser l'État et de rêver d'un État tel qu'il était sous Georges Pompidou, ou sous avant, ou même dans d'autres pays. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la tribune et sans doute dans la salle sur l'objectif ultime, qui est de sortir du capitalisme néolibéral. Ce dont on est en train de parler là, c'est de stratégie. Et ce que je vous dis, c'est que la stratégie la plus sérieusement envisageable à court terme pour sortir du capitalisme néolibéral, c'est d'avoir un gouvernement de gauche radicale qui prenne le pouvoir dans un pays comme la France et qui mette en place de véritables politiques de gauche. Ensuite, qu'il faille aller vers un internationalisme, qu'il faille aussitôt élu, lancer un appel aux autres États européens et en dehors de l'Union européenne, qu'ils fassent, par des mesures de désobéissance européenne, donner l'exemple de ce que peut faire un gouvernement de gauche en rupture avec le capitalisme néolibéral. Qu'on essaye de lier de nouvelles alliances avec les peuples qui subissent l'austérité de plein fouet, en Grèce, au Portugal, en Irlande. Qu'on noue des alliances avec les peuples d'Amérique du Sud, par exemple, où il est quand même en train de se passer des choses extrêmement intéressantes et qui ne renvoient pas au socialisme des années 60, ni à des notions d'État telles qu'on a pu les connaître par le passé. C'est ça, construire un nouvel internationalisme. Et tu parlais tout à l'heure de mouvements coopératistes. Ce qu'il faut bien constater, c'est qu'on peut souhaiter aujourd'hui développer un mouvement coopératif qui va effectivement constituer une alternative a priori à, sinon la mondialisation néolibérale, mais à un modèle économique. Mais si on ne change pas le modèle économique, ce mouvement coopératif, et on le voit tous les jours, est obligé de se couler dans un moule qui est celui du capitalisme néolibéral, et soit il en crève, soit il se transforme en un mouvement coopératif qui joue avec les armes du capitalisme néolibéral. Et on revient au point de départ. Tout ça pour vous dire que on n'est pas sur une logique nationaliste, on est sur une stratégie de réhabilitation de l'État pour sortir de la mondialisation néolibérale et de ses institutions. Parce que l'OMC, le FMI, l'Union européenne sont les institutions de la mondialisation néolibérale, qui évidemment ne se résument pas au libre-échange. Hein, bon, tu citais la puissance incroyable de la finance internationale, mais on ne peut pas rompre avec la mondialisation sans rompre avec le libre-échange. Et pourquoi ? Eh bien parce que grâce au libre-échange, les multinationales, les grandes puissances financières ont acquis un tel pouvoir que tous les instruments, la taxation du capital, la mise en place de réglementations nationales sans revenir sur le libre-échange, resteront lettre morte. C'est-à-dire qu'une entreprise qui peut délocaliser ou qui peut faire du chantage aux délocalisations, qui peut choisir un sous-traitant dans un pays à bas coût de main-d'œuvre plutôt qu'un sous-traitant à Châtellerault, eh bien cette entreprise dispose du pouvoir d'empêcher tout rééquilibrage dans la taxation des richesses, dans la répartition des richesses. Et donc le protectionnisme écologique et social ne vise pas simplement à se protéger des importations de multinationales qui auraient délocalisé dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Il vise à reprendre ce pouvoir politique sur l'économie et à casser cette arme de destruction massive du chantage aux délocalisations. Et le protectionnisme écologique et social, et ça, je le dis avec beaucoup de force parce que l'analyse que tu en as faite tout à l'heure me paraît assez caricaturale. Le protectionnisme écologique et social n'est pas un synonyme de repli sur soi et encore moins un synonyme de stigmatisation des pays à bas coût de main-d'œuvre et des populations des pays à bas coût de main-d'œuvre. Avec ces mesures, on s'attaque aux multinationales, à celles qui délocalisent dans ces pays pour approvisionner le marché occidental et qui pressurent les salaires dans les pays occidentaux, qui permettent la casse du droit du travail, puisque vous avez tous compris que la mondialisation, c'était quand même l'alignement sur le plus compétitif au niveau de la concurrence internationale, et aujourd'hui, le plus compétitif, eh bien, c'est les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et on ne peut pas dissocier le protectionnisme écologique et social de mesures extrêmement importantes de solidarité internationale pour éviter justement que ces pays soient pénalisés par une restriction des échanges. Mais si on continue à croire, comme le dit l'OMC, comme le dit le FMI, comme le dit l'Organisation des Nations Unies, que pour lutter contre la pauvreté,
il faut développer, intensifier le commerce international et que ça va favoriser les populations des pays du Sud, ben là, je crois qu'il y a besoin d'un autre débat, d'autres festivals raisons d'agir, parce que je suis en désaccord complet avec cette analyse de la mondialisation heureuse qui est tous les jours contredite par les faits. Et pour montrer que l'internationalisme est au cœur du projet qu'on défend au MPEP, on a ressorti un vieux texte qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle la Charte de la Havane, qui n'a pas de rapport direct avec Fidel Castro ou avec les cigares, mais qui est un texte absolument essentiel que tout le monde a oublié, où, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, 53 États se réunissent pour essayer de dessiner une organisation internationale qui, sur le papier à l'époque, était à peu près l'anti-OMC, l'anti-Fonds monétaire international. Donc l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Où chaque État était en mesure de protéger son agriculture, son industrie contre le dumping social, y compris par des mesures protectionnistes, où on consacrait le principe de l'équilibre de la balance des paiements, c'est-à-dire qu'un État ne pouvait pas exporter pendant des années plus qu'il n'importait, on ne devait pas avoir de déséquilibre structurel, et on avait un commerce international qui aurait dû être une espèce de commerce équitable à l'échelle des 53 États. Évidemment, cette Charte de la Havane a été pilonnée par les États-Unis qui, à la place, ont construit la mondialisation telle qu'on la connaît avec ses institutions, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le GATT, puis l'Organisation mondiale du commerce. Donc on n'est absolument pas dans un projet de repli sur une quelconque identité ou une quelconque stratégie nationale. Et il faut se sortir de la tête que des mesures unilatérales sont synonymes d'un repli sur l'État-nation. Et pour terminer sur la question de la désobéissance européenne, pourquoi est-ce que la désobéissance européenne a autant de force? Et pourquoi, à mon sens, c'est le grand tabou qu'il faut lever dans le débat politique aujourd'hui? Eh bien parce que, d'une part, la désobéissance européenne est quelque chose de totalement révolutionnaire, puisque qu'est-ce que ça signifie? C'est pas simplement refuser de transcrire une directive européenne parce qu'elle ne nous plaît pas. C'est restaurer la primauté du droit national sur le droit communautaire. Pourquoi? Parce que un gouvernement de gauche, un Mélenchon, un Besancenot, un qui vous voulez qui arriverait au pouvoir en 2012 et qui prendrait une loi disant je vais taxer les mouvements de capitaux, cette loi serait déclarée inconstitutionnelle immédiatement parce que le droit national est soumis au droit européen qui l'interdit. Et donc, première mesure à prendre pour un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir, c'est une réforme de la Constitution française pour restaurer la primauté du droit national sur le droit communautaire. Mais est-ce que vous imaginez la capacité de mobilisation que représente, par exemple, une loi qui renforcerait les services publics et qui remettrait dans le domaine public des services comme l'énergie, comme les transports, comme l'éducation, la santé, qui développerait de nouveaux services publics, par exemple sur la question environnementale? Est-ce que vous imaginez l'impact de ces mesures sur les mouvements sociaux dans les autres pays européens? Est-ce que vous croyez que les écologistes en Allemagne, en Grande-Bretagne, est-ce que vous croyez que les syndicalistes qui sont en lutte, par exemple en Grande-Bretagne, pour préserver le service public de la Poste, vous croyez que, voyant la France prendre de telles mesures, il resterait les bras croisés et qu'on n'aurait pas un mouvement social qui, d'un seul coup, serait totalement dynamisé et qui aurait un exemple politique sur lequel il pourrait s'appuyer? Moi, je suis persuadé qu'en l'espace de quelques mois, on peut non seulement avoir, grâce à la désobéissance européenne et grâce à des mesures unilatérales, non seulement des mouvements sociaux d'une ampleur absolument incroyable, mais des basculements politiques qu'on ne soupçonne pas. Et effectivement, je crois que s'il y a une chose à retenir de la révolution arabe, c'est qu'à partir du moment où un État a le courage de rompre avec un certain nombre de pratiques, on peut avoir une contamination à une vitesse non seulement assez impressionnante, mais dans des pays dont on n'aurait pas soupçonné un tel basculement. Et je pense qu'il faut absolument qu'on y réfléchisse et que ce lien entre l'échelon national et l'action nationale et l'internationalisme, il doit être effectivement au cœur de notre stratégie.
Non, pas long du tout. Je ne vais pas reprendre ce débat, pas parce qu'il n'est pas intéressant, parce que vous avez, en gros, je crois, eu les arguments des deux côtés. Moi, je voulais intervenir sur trois points qui ont été pointés dans le débat. Le premier, c'est ta question sur transnationalisme ou internationalisme. Je pense que ce à quoi on assiste, c'est une sorte de mixte entre les deux. L'internationalisme, ça correspondait à deux idées. Première idée, être en solidarité avec, manifester avec les Tunisiens, les Égyptiens et tous les autres. Et puis la deuxième idée que Che Guevara avait bien symbolisée, c'était l'idée que la meilleure façon d'aider à l'époque les Vietnamiens, c'était de faire 1, 2, 3 Vietnam, c'est-à-dire en fait de lutter chez nous parce que ça modifie les rapports de force globaux. Ces deux versions-là de l'internationalisme continuent à exister et sont toujours très présents. Si on peut se battre vraiment en France contre les plans d'austérité en suivant les Grecs et les Portugais, nous aiderons aussi les Grecs et les Portugais. Bon, tout ça va de soi, je pense, mais ça vaut la peine de le rappeler. Hein. Bon, donc ces deux aspects-là continuent à être très importants et je crois qu'on y participe tous en nous mobilisant, en manifestant, etc. À ces deux aspects-là se rajoute une troisième façon de faire, un troisième type de mobilisation qui est vraiment là de l'ordre du transnational. C'est quand on agit ensemble, par exemple, pour Copenhague, sur les questions comme le changement climatique ou sur les questions nucléaires, après, en effet, la catastrophe de Fukushima. Quand on a, sur des sujets de ce type, une capacité à construire ensemble une mobilisation, comme on l'a fait, là, le film l'avait montré, contre la guerre en Irak, on change un peu d'horizon, on change un peu d'échelle et on passe vraiment à des luttes transnationales. Ces luttes transnationales n'arriveront à se concrétiser que sur un certain nombre de terrains. Hein, on voit bien que sur l'austérité, ça passera plutôt dans des schémas un peu classiques de l'internationalisme, parce qu'on n'a pas été capable aujourd'hui, ça viendra peut-être, d'avoir une vraie mobilisation conjointe des Grecs, des Portugais, des Espagnols, des Français, des Allemands, etc. On l'a tenté dans le Forum social européen, on n'a pas réussi jusqu'à présent. On l'a réussi sur d'autres sujets, je vous dis la guerre, les questions environnementales en particulier, les questions sur les droits de l'homme, sur les questions de ce type. Mais ce qui est intéressant pour moi en termes de conclusion, pour répondre à la question du colloque, c'est de considérer qu'on a une espèce de mixte entre les deux, une espèce de situation intermédiaire où les deux n'ont pas l'autre, mais s'ajoute à l'autre. Ça, c'était la première idée. Deuxième idée, l'esthétique. Moi, c'est une question qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et en fait, en regardant un peu historiquement, je crois qu'il y a eu une période révolutionnaire qui s'est accompagnée d'une révolution esthétique absolument gigantesque, c'est 68. Où là, on a eu à la fois une espèce de révolution dans les codes musicaux, l'arrivée du rock, de la pop, enfin, tout ce qui a été le mouvement des années 60-70. Et puis aussi, même sur le plan de l'image, tout ce qui était tout ce qui venait, disons, là aussi du mouvement beatnik, du mouvement américain qui s'est diffusé à travers le mouvement hippie vers le mouvement 68-art. Il y a eu aussi bien sur le plan graphique ou esthétique écrite, enfin passée sur le papier ou peinte, et esthétique musicale, une espèce de concordance avec un mouvement révolutionnaire mondial. Mon sentiment, mais j'ai peut-être tort et tu connais probablement mieux, enfin vous connaissez mieux ça que moi, c'est que c'est peut-être un cas un peu unique, qui correspond à une révolution qui est vraiment une révolution générationnelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le mouvement altermondial... Oui, au sens d'une génération qui... Non, mais concomitante avec des vraies révolutions, j'en suis pas sûr. Aujourd'hui, moi j'ai le même constat, c'est-à-dire qu'il y a dans le mouvement altermondialiste quelque chose qui a vraiment changé la donne au niveau mondial, sur le plan esthétique, assez peu. Moi j'ai cette impression-là, c'est une impression. Mais je serais intéressé à poursuivre cet échange, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, sur lequel j'ai peu d'éléments, mais qui moi m'intéresse à titre purement personnel. Troisième idée, les savoirs, et je finis là-dessus. C'est un excellent exemple, parce que ça montre qu'on peut être tous ensemble contre une marchandisation, en l'occurrence celle des savoirs. Sur l'eau, ça va de soi aussi. Mais non, je vais dire quand même un mot sur l'eau avant, et je reviendrai sur les savoirs. L'eau est intéressant, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, mais il faut bien voir que la France, et là on revient au débat sur l'État, était le pays qui, à l'époque de l'État fort et du fordisme, avait développé les outils de marchandisation qui vont s'exporter après l'ouverture de la phase de mondialisation. C'est nous qui avons inventé la marchandisation de l'eau, les Français. C'est ni les Américains ni les autres. C'est nous qui avons inventé Suez et CGE, ou Vivendi Environnement, qui sont les deux seules vraies multinationales de l'eau. Les Américains n'ont pas de marchandisation de l'eau, beaucoup moins que nous. Et dans le reste de l'Europe, on est vraiment la pointe avancée des multinationales conquérantes. Donc ça montre bien à quel point cette marchandisation ne vient pas seulement des années 80-90, c'est-à-dire de la mondialisation néolibérale telle qu'on la connaît, mais il était bien antérieur, en particulier sur l'exemple de l'eau. Mais sur les savoirs, je trouve que l'affaire serait plus intéressante encore, parce qu'on peut se mettre tous d'accord ici sur le fait qu'on est contre la marchandisation des savoirs, 100%, mais on verra tout de suite qu'il y a deux façons d'y répondre à cette lutte contre la marchandisation des savoirs. L'une façon, c'est de se rapporter à l'État, et de dire, bon, bah, contre la marchandisation des savoirs, c'est l'éducation nationale, publique, laïque et démocratique qui doit être la réponse à. Mais l'autre façon que le mouvement développe, c'est de dire, non, ça doit être directement un bien commun de l'humanité, directement mondial, en sautant la case État, la case planification, la case service public, souverain, démocratique, tout ce qu'on veut. Bon, est-ce que tout le mouvement de la culture libre, de Wikipédia, et moi je sais que je m'y mets beaucoup, mais c'est une question très concrète, hein, est-ce que quand un prof de fac, hein, toi ou quiconque d'autre, fait un cours et qu'il veut le mettre à disposition, est-ce qu'il faut que ce soit marchandisé? Bon, on va dire non, ça on est tous d'accord, on va pas le vendre au plus offrant, mais est-ce que ça doit être mis dans la caisse du coffre-fort de l'État qui, elle, ne voudra pas, enfin l'État ne voudra pas le laisser à disposition de tous, ou est-ce qu'au contraire, on court-circuite l'État et on agit directement en le mettant en Creative Commons, enfin en l'occurrence sur un Wikipédia université qui existe, hein, qui se développe très très vite en ce moment, et qui permet d'avoir directement un bien commun, qui est un bien commun du savoir et de la connaissance. Donc là, on a un exemple très concret qui historiquement vient du mouvement alter, d'un vrai débat sur les médias. Hein, bon, et là aussi, c'était un débat avec le monde diplomatique. Les gens d'Indie Media, hein, ceux qui sont aussi à l'origine du film qu'on a vu tout à l'heure, ils ont un mot d'ordre qui est excellent. Ils disent « Don't hate the media, be the media ». Ne haïssez pas les médias, un peu comme le monde diplomatique se bat toujours contre les médias dominants, mais soyez les médias, faites-le. Bon. Et cette idée-là est quand même assez radicale et assez subversive. Hein. L'idée que dans des nombreuses activités, en particulier dans tout ce qui relève du savoir et de la connaissance, hein, donc c'est le journalisme, c'est l'art, c'est l'écriture, etc., on peut aussi, nous, transformer la donne et court-circuiter ceux qui traditionnellement étaient les dépositaires du savoir, qui étaient ces États, avec tous les défauts qu'on leur connaît, mais on passe à côté par la voie de traverse. Et c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse, parce que c'est une des leçons du mouvement altermondialiste.
Décidément, on aurait dû garder, prendre en otage nos amis du monde diplomatique, tant sur le pachamamisme que sur les médias. Je voulais dire deux choses. Enfin, on ne va pas, aujourd'hui, samedi 9 avril, à 17h40, régler la question du programme de travail du mouvement populaire pour les années qui viennent. Néanmoins, il me semble qu'entre les deux versions qui nous ont été données, des perspectives politiques face à la mondialisation libérale, il y a quand même, peut-être quand même, des chemins de crête qui pourraient être empruntés. Alors, je voudrais en donner deux exemples qui, du coup, redoubleront aussi la question transnationale, internationale. Sur la question du savoir, ou alors peut-être pas du savoir au sens où tu l'as défini, mais en tout cas des institutions d'enseignement supérieur et du service public. Je pense quand même qu'au-delà des résistances nationales, il nous a manqué ces dernières années un outil de résistance à l'échelle européenne, parce que c'est d'un des secteurs où les politiques européennes sont niées, mais sont les plus puissantes, sont niées parce que ce n'est pas dans les compétences de l'Europe, et en même temps, il y a Bologne, Barcelone, etc., etc. Donc un certain nombre d'accords qui, de fait, et des élaborations à l'échelle européenne qui, de fait, se sont inscrites dans les réformes nationales au fil du temps, en prenant bien soin qu'elles n'interviennent pas dans les mêmes périodes, de telle sorte qu'on assiste à une sorte de grève tournante à l'échelle des universités en Europe, qui rate une partie de son efficacité, du fait même que, si vous écoutez un peu les médias, hein, vous entendrez que les grèves se succèdent d'un pays à l'autre sur pratiquement et de plus en plus les mêmes sujets à l'échelle de l'Europe. Donc je pense que là, véritablement, construire des outils de résistance entre universitaires, si c'est possible, et entre étudiants, en tout cas, à l'échelle de l'Europe, ça reste un enjeu extrêmement important, je le répète, pour les années qui viennent, comme outil de résistance, mais aussi, je pense que quand on mobilise la jeunesse sur des enjeux comme cela, avec cette importance-là, c'est plus seulement un outil de résistance. Et d'autre part, dans le champ plus électoral, dans le champ plus directement politique, pour reprendre les propositions d'Aurélien, l'idée consistant à dire « prenons le risque et assumons le risque politique de dire dès lors que nous accéderions au pouvoir, nous avons une stratégie claire que nous proposons comme telle au suffrage universel, qui serait de refuser les injonctions de l'Europe, qui serait de dire qu'on entre dans une forme, et pourquoi pas reprendre la formule de désobéissance européenne, je pense que ça aurait une certaine efficacité par rapport à un discours dans lequel nous tendons toujours à être enfermés, opposant en quelque sorte la coopération des peuples, etc., mais très vite, certains nombres de protagonistes les politiques vont dire oui, mais les institutions, moi, c'est pas possible, voyez. Bon, on leur dit oui, mais c'est pas dans les institutions. Oui, mais de toute façon, vous voyez bien, les pays de l'Est, l'Europe, l'Angleterre, etc., sont pas du tout sur cette majorité-là, donc c'est pas possible. Eh bien, proposons une autre stratégie qui consiste à dire à l'échelle nationale, déjà, nous résistons, nous proposons des actes, non pas de sortie définitive, non pas une philosophie protectionniste, mais simplement un acte de désobéissance à l'égard des institutions européennes. Et immédiatement avec, nous engageons aussi des actes de construction de solidarité à l'échelle internationale pour dire, par exemple, qu'au niveau de la circulation des migrants, que sur l'accès à l'eau, que sur l'accès à un certain nombre de services, eh bien, on appelle à la mobilisation des peuples et qu'à la fois, les pays dans lesquels se développent des mouvements politiques qui permettent des bascules de majorité, permettent d'être des points d'appui de ce mouvement international et qu'en même temps, les mouvements peuvent se libérer également à l'échelle des peuples, des mouvements, etc., dans les autres pays. Je pense que inscrire très clairement une perspective, une stratégie politique, en quelque sorte, de cette façon-là, ce serait peut-être pas simplement une façon de vous mettre d'accord, mais peut-être aussi une façon de redonner de l'espoir par rapport aux échéances qui viennent.
Oui, donc je voulais juste me permettre une petite remarque par rapport à la marchandisation dont on parlait tout à l'heure, ou même le libre-échange en tant qu'outil du libéralisme économique, dont pour moi, mondialisation est seulement la version euphémisée de libéralisme économique. Donc si on le redécline avec la version premièrement industrielle, ensuite capitaliste et ensuite financière, ce que je voulais vous soumettre, c'est qu'en fait, cette question de marchandisation et répondre au problème du libéralisme économique implique d'une certaine manière de ne se détacher de la vision économique qu'on peut avoir du monde. Si on prend par exemple cette question du protectionnisme, de la taxation des industries, est-ce que répondre de manière économique comme vous le faites en taxant les industries qui délocalisent est une solution convenable, ou est-ce qu'on ne pourrait pas se demander quelle va être l'utilité sociale de ces industries? Est-ce que Coca-Cola, qui est en Indonésie, il vaut mieux le taxer, ou est-ce qu'on va plutôt déterminer que Coca-Cola n'a pas besoin d'autant d'industries, ou qu'il n'y a pas d'utilité sociale derrière, que ça peut entraîner des dégradations environnementales? Donc replacer les piliers sociaux et environnementaux au devant du point économique, et ne pas voir tous les problèmes de cette manière, de manière à ne pas refaire la mondialisation plutôt que de la défaire.
Moi, je vais me permettre du coup une petite question puisque j'ai le micro. Je voulais poser la question à Aurélien, qui doit être une question à laquelle vous êtes sans doute confronté régulièrement, qui est puisqu'on a évoqué la question électorale aussi, comment cet argument alors pas protectionnisme, mais je ne sais plus la formulation, de désobéissance européenne, comment vous la justifiez, enfin comment, pardon, je vais essayer de formuler correctement, comment vous la proposez par rapport à d'autres, les autres propositions de cet ordre-là en termes électoraux, c'est-à-dire qui sont portées aujourd'hui par le Front National depuis plusieurs années. Comment vous différenciez, je m'en doute, de ça. Et du coup, comment, par rapport à tous les arguments qui ont été justement opposés à la proposition du Front National des propositions protectionnistes, en disant ça ne peut pas marcher, ça mettra l'État, l'économie en faillite. Enfin, dès que cette proposition du Front National était posée en débat dans des débats politiques médiatisés, c'était tout de suite cet argument qu'on balayait complètement. Donc comment vous construisez justement, vous, des contre-arguments à cette idée de faillite et de dépression et d'autres arguments?
Oui, j'avais juste une question que j'ai oubliée tout à l'heure pour Christophe Aguiton, parce qu'effectivement, Bertrand l'a rappelé, on nous a présenté le mouvement altermondialiste hier du côté scientifique, du côté des chercheurs, de manière pas très positive. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de Dakar, c'était pas du tout la même image. Il y a quelque chose qui a été dit hier qui était justement par rapport à Dakar. Elle avait constaté, cette chercheuse, une certaine professionnalisation des militants altermondialistes. Donc, est-ce que tu pourrais répondre là-dessus ?
Non, je vais pas faire un
si
court.
On aborde la dernière série de questions et de réactions.
Et moi, je voudrais revenir sur l'idée de penser que, par rapport à la séquence électorale, Aurélien t'a dit si un Besancenot, un Mélenchon, un Besancenot arrivait au pouvoir. Moi, c'est plutôt, moi, je suis plutôt vers Besancenot. On ne dit pas ça, quoi. On ne dit pas qu'on va arriver au pouvoir, parce qu'on pense que s'il n'y a pas de remise en cause profonde de la production, comme ça a été dit précédemment, c'est-à-dire quel type de production, s'il n'y a pas une remise en cause de quel type de fonctionnement, quelle délégation de pouvoir, quel fonctionnement entre les personnes, quelle mobilisation, etc., il n'y aura pas d'arrivée au pouvoir qui va déclencher des choses. Les choses, elles ne se feront pas par étapes. Il y avait toute une théorie après 1917, où j'étais jeune, en fait, je n'étais pas né. Hein. Après 1917, il y a toute une théorie chez les marxistes pour justifier la révolution par étapes, hein, que mettait en place Staline, hein, et qui disait on va d'abord faire ça, après on va faire ça, on va faire ça. Moi, je pense qu'il faut que... Alors ça, c'était plutôt la théorie de Trotsky, de parler de la révolution permanente. Alors, ça ne veut pas dire en permanence, mais ça veut dire que toutes les choses se font en même temps. Les choses, elles évoluent en même temps, il faut les prendre en même temps. C'est-à-dire, il faut prendre en même temps la remise en cause de la production, avec le fait que les salariés se battent pour leur emploi, avec le fait qu'on se bat contre le nucléaire, etc. Il faut mener tout de front et toutes les interrogations en même temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, tout marche en même temps et compagnie, mais il faut le faire. Parce que j'ai aussi l'âge de me rappeler que EDF, qui est maintenant privatisé, a été un grand service public, a été l'honneur du service public après-guerre, et qui a été un État dans l'État, dans lequel jamais les usagers n'ont plus mettre le doigt. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu. D'accord ? Alors, en alliance avec la bourgeoisie, etc. Mais le nucléaire, EDF l'a fait sans jamais aucun débat nulle part. Donc, un service public en soi, même garanti par un État, n'offre aucune garantie. EDF est là pour le rappeler. Si on regarde aussi ce que peut faire un État, etc., on se rappelle que, pour ceux qui étaient nés, on se rappelle que Lénine, après la révolution de 17, hein, disait qu'il était vachement content au bout de 3 mois, parce qu'il disait « on a tenu 3 mois ». Lui, il pensait que de toute façon, la révolution, elle ne pouvait être que mondiale. Et si on voit aussi ce qui s'est passé, ça ressemble un petit peu à ce que tu dis, à la théorie de Che Guevara, hein, sur les focos, les foyers. C'est-à-dire, alors, il y avait l'histoire de on crée un, deux, trois Vietnam, etc. Mais il y avait l'histoire de dire aussi on crée dans un endroit un espace, hein, qui va être un espace libéré et qui, par transcroissance, va pouvoir donner l'exemple, etc. C'est ce qui a marché à Cuba pour la révolution. Mais sauf que à ne pas prendre toutes les questions en même temps, l'histoire de Foucault a bien marché, sauf que, par exemple, la question du pluripartisme n'était pas dans les idées des révolutionnaires cubains, et le pluripartisme, et ils attendent encore, d'accord ? Ce qui fait qu'au niveau des démocraties, ils ont que dalle. Par contre, ils ont une centrale nucléaire. Donc, je pense que les thèmes, il faut les bosser tous en même temps. Dernier exemple, c'est sur la Tunisie. C'est vrai que c'est un pays qui a donné l'exemple aux pays arabes, etc., etc. Sauf que là, on en est qu'au début d'un processus. C'est-à-dire qu'actuellement, la question qui se pose actuellement, c'est quel État, mais pas quel État on va mettre un nouveau personnel dans l'État tel qu'il fonctionnait. L'État Bourguiba, l'État Ben Ali et compagnie, ils veulent pas, il y a une partie de la population qui ne veut pas reprendre ça pour le faire fonctionner différemment. Il y a toute une partie de la population, en tout cas c'est la question qui est portée actuellement, qui dit qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, par rapport au tourisme. La Tunisie, c'est le pays du tourisme. Si vous allez sur Internet, vous cherchez, c'est pas cher, hein, en ce moment, hein, la Tunisie. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que les Tunisiens veulent ça comme tourisme ? Ça, c'est une question qu'ils vont devoir poser. Et ils ne vont pas seulement prendre les rênes de l'État pour que l'État continue à vendre du soleil pour faire du tourisme tel qu'il était actuellement. Toutes les questions sont posées en même temps. C'est une révolution
en permanence, c'est une révolution permanente qui doit transcroître, etc. Donc au niveau tactique, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut partir de la Tunisie, ça peut partir d'ailleurs, etc. Mais en même temps, les questions, il faut les poser en même temps, même si à un moment donné, il faut les hiérarchiser différemment, parce qu'à un moment donné, à oublier certaines questions, on peut retomber sur des travers anciens. L'absence de pluripartisme, l'absence d'autogestion, une délégation de pouvoir systématique et un État dans l'État.
Dernière intervention, s'il y en a une, sinon on va redonner la parole à ceux qui sont à la tribune, s'ils veulent la prendre.
Bonsoir. J'ai remarqué que lorsque j'assiste au débat, on ne parle pas souvent de l'Afrique centrale ou même du Gabon, alors qu'on sait que... Il y a beaucoup de firmes multinationales qui sont installées dans ces pays-là. Et aujourd'hui, même on crée un code du droit des affaires pour protéger les investisseurs, tandis qu'on ne crée pas de... Il n'y a pas de règles à l'intérieur de ce code qui protège les travailleurs dans ces entreprises-là. Et il n'y a même pas de règles concernant les obligations que les exploitants peuvent avoir envers les populations lorsqu'ils exploitent, par exemple, des minerais et puis, en fait, ils dégradent l'environnement. Et, en fait, je me pose la question parce que j'ai l'impression qu'on oublie souvent un peu ces pays-là dans plusieurs débats. Et donc, en fait, c'est une remarque en même temps. Donc
Kamel Taffer.
Pour conclure, enfin, justement, pour rebondir sur la dernière intervention, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais Aurélien, c'est pas une question de caricaturer, c'est juste que je me méfie de ces idées-là dans le sens où, y compris les premiers économistes libéraux, Adam Smith, David Ricardo, qui ont théorisé le libre-échange, la mondialisation qui a pris forme par la suite, typiquement c'était avec l'idée selon laquelle c'était un jeu à somme positive, c'est-à-dire que tous les pays gagneraient à l'échange, et que ça serait positif, mais dans la réalité, dans les faits, c'était surtout une manière de régler des contradictions internes, typiquement de l'économie anglaise, c'est-à-dire les tensions sociales, les revendications salariales, et une manière de régler ces revendications salariales, c'était de chercher par des pays, typiquement l'Inde, hein, pour les Anglais, typiquement à travers l'Inde, de chercher bah, par exemple, une production de blé en Inde moins chère, et qui permettait bah, de garantir à la fois une augmentation des salaires, mais aussi de garantir les profits des producteurs. Donc, c'est pour ça que je me méfie de cette idée-là, et je m'en méfie d'autant plus qu'encore aujourd'hui, c'est dans les mêmes termes, typiquement quand on parle du protectionnisme, alors oui, ce n'est pas un protectionnisme tarifaire, c'est un protectionnisme non tarifaire, alors au nom d'arguments sociaux, hein, parce qu'il s'agit de défendre les travailleurs exploités dans le reste de la planète, y compris par des entreprises capitalistes délocalisées, très bien. Mais moi, je pense que la vraie solution, c'est plutôt que ces travailleurs eux-mêmes se mobilisent. On le voit bien, par exemple, typiquement dans l'actualité, ces dernières années en Chine, bah, la montée du mouvement ouvrier chinois, les revendications salariales. Je pense que c'est plus comme ça qu'on va construire un nouvel internationalisme et qu'on va avoir une solution plus équitable à la fois de la répartition des richesses au niveau planétaire, mais aussi... à terme, effectivement, de sortir de cette logique capitaliste. Je pense que ça, c'est plus une solution à terme qui me semble meilleure d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue de changement de donne économique. Parce que, comme c'est dit dans la dernière intervention, parce que c'est vrai qu'à discuter de l'Union européenne, à discuter de la situation de la France dans l'Union européenne, etc., on a un peu l'impression que le reste du monde n'existe pas trop et que notre priorité, c'est plutôt notre situation nationale, notre situation sociale. Alors que, d'une certaine manière, on est les premiers responsables de cette situation mondiale qui se dégrade. Les accords de l'OMC, les accords du GATT, tout comme l'Union européenne telle qu'elle a été construite, la responsabilité en incombe justement aux grandes puissances. Donc, elle incombe en grande puissance, mais je ne pense pas pour autant qu'on va régler, comme je disais, tous les problèmes de tous les pays, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons décidé. Déjà, d'une part, en termes de souveraineté, ça pose problème. Et deuxièmement, même si on regarde à l'échelle nationale, enfin à l'échelle nationale, c'est pas juste sur la question politique, sur la question des élections, faire des prospections sur 2012, même si on y a un an. C'est aussi, enfin, on voit bien que c'est complexe, on voit bien que c'est la question du rapport de force au niveau social. C'est un certain nombre de paramètres qui ne sont pas juste uniquement au niveau électoral, uniquement au niveau des élections. Donc ça, c'était mon premier point en termes de conclusion. Le deuxième point, enfin, peut-être que je l'ai dit dans mon intervention, peut-être que ça n'a pas donné l'occasion de trop de débats, mais je pense que c'est, je persiste et je signe, je pense qu'on ne peut pas parler de cette question de l'internationalisme, du transnational, etc., sans parler aussi de la question de la culture. Parce que, par exemple, même ne serait-ce que si on regarde par un petit bout de la lorgnette la question de la mondialisation, de la marchandisation, c'est aussi une certaine forme d'occidentalisation, d'américanisation au niveau économique. Et c'est aussi, ça pose problème quand vous avez le reste des pays du monde à qui on impose une certaine économie, une certaine manière de consommer. Ça aussi, ça pose problème, ne serait-ce que si on regarde par ce petit bout de la lorgnette, sans parler des cultures, des problèmes des civilisations, des problèmes enfin, aussi religieux. Donc je pense que, enfin, c'est vrai que j'ai peut-être pas trop parlé d'un point de vue organisationnel, militantisme, de coordination, de conjugaison de ce qui se passe au niveau local, au niveau national, au niveau international. Mais je pense que sur le fond, il y a aussi ce deuxième aspect sur lequel, à un moment donné, il faut s'attarder également.
Eh bien, on peut continuer dans cet ordre-là et en vous demandant de ne pas être trop long pour la dernière prise de parole.
Moi, je voulais revenir sur la question du bien commun, qui est une question extrêmement intéressante, et de la marchandisation. Au passage, je vais faire un petit peu de pub avant le bouquin sur la désobéissance européenne qui doit être dans le fond de la salle. J'ai écrit avec un camarade du MPEP un petit bouquin qui s'appelle « Ne soyons pas des écologistes bonnets » pour traiter justement de la question environnementale, qui est un peu mon domaine de prédilection, et évidemment défendre la notion de bien commun. Maintenant, une fois qu'on a fait le constat que on est face à des crises environnementales qui sont d'une ampleur jamais connue, qu'on a celle du changement climatique, qu'on a les problèmes de biodiversité, de pollution chimique, etc. Et une fois qu'on a défini la notion de bien commun en disant ce serait bien de sanctuariser un certain nombre de ressources, et puis peut-être qu'on arrivera à se mettre d'accord pour en faire la liste, la question c'est comment on fait ? Moi, je veux bien qu'on fasse des accords internationaux pour faire de l'eau un bien commun. Mais on n'arrive déjà pas à faire un accord international, ni même un accord européen pour mettre en place une taxation des transactions financières. On n'arrive pas à mettre en place un accord pour réduire, ne serait-ce que de quelques pourcents, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous êtes gentils, mais notre notion de bien commun, au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, au niveau international, on peut s'asseoir dessus. Et donc, on en revient à la même question. C'est-à-dire, si on veut mettre en place des mesures de protection de l'environnement, eh bien, il faut commencer par casser les outils de la mondialisation néolibérale. Et je vous donne un petit exemple que j'aime bien, parce que j'ai écrit là-dessus. Au moment même où se créait l'association ATTAC, au moment de la crise financière dans les pays asiatiques, au moment où la finance internationale commençait à être désignée comme étant un des responsables de la catastrophe dans laquelle on est, eh bien, nos camarades de la finance internationale créaient le marché du carbone, c'est-à-dire une bourse sur laquelle on s'échange, on vend, on achète, on spécule des droits à polluer, des droits à émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, on peut parler de bien commun pendant des heures. Si on ne parle pas à un moment donné d'asphyxier la finance internationale, et si on ne donne pas des clés pour supprimer la capacité de nuisance de la finance internationale, voilà, on va faire de la philosophie. C'est toujours intéressant, mais il y a un moment donné où il faut passer à du concret. Et je suis totalement d'accord avec ce que disait Pascal. On est tout à fait pour la révolution permanente. Et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si vous prenez les propositions qu'on développe dans les bouquins, vous y trouvez la question de l'emploi, du retour au plein emploi, la question de la fermeture de la bourse. Alors ça, c'est un sujet de discussion avec nos camarades d'attaque. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller dans la régulation de la finance internationale, nous, on propose d'aller jusqu'à l'asphyxie des marchés financiers et la fermeture de la bourse. Et puis également la réforme en profondeur du système productif et des services publics pour ne pas retomber dans ces travers qui ont été très bien énoncés. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il faille attendre que ces choses-là changent avant de prendre le pouvoir, et qu'au contraire, on est face à des enjeux tellement importants que c'est seulement par la prise de pouvoir, mais bien sûr avec un mouvement social extrêmement fort derrière, qu'on pourra venir à bout de l'euro-libéralisme et de la mondialisation néolibérale. Et je termine sur la question qui est une des questions majeures en ce moment, qui est celle du Front National. D'une part, bon, il n'y a absolument aucune ambiguïté et aucune inquiétude à avoir par rapport aux positions du Front National. Il suffit de lire les propositions du mouvement altermondialiste, du MPEP, et donc même des altermondialistes qui donnent encore du sens à la souveraineté nationale, pour voir qu'on est sur des conceptions diamétralement opposées. Enfin, la notion de solidarité internationale dans le programme du Front National, évidemment, n'existe pas. La xénophobie est à toutes les pages. On est effectivement là sur des logiques de repli, alors que nous sommes clairement dans des logiques internationalistes. Et pendant des années, le Front National a porté à bout de bras l'ultralibéralisme. Si vous lisez le programme du Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que vous y trouvez ? Eh bien, il faut dégraisser l'État, il faut arrêter la gabegie qui consiste à financer les services publics, il faut laisser les entreprises se débrouiller et favoriser la concurrence. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le Front National réécrit en totalité son programme politique, prend des positions totalement démagogiques. Vous trouvez aujourd'hui dans le programme du Front National l'interdiction de licenciement pour les entreprises qui font des bénéfices, qui est un copier-coller de Besancenot. Vous y trouvez la réforme de l'OMC et du Fonds monétaire international, qui est un copier-coller d'attaque. Et vous y trouvez, bien sûr, des mesures protectionnistes, la préférence nationale, tout le truc habituel. Ce qui est dramatique, c'est que si on renonce à répondre concrètement à la question européenne et à la question du libre-échange, c'est le Front National qui va tirer tous les bénéfices de l'incurie des pouvoirs politiques aujourd'hui. Et ce qu'on est en train de faire, et la gauche est coupable, c'est de laisser le champ libre au Front National pour 2012 et peut-être encore plus pour les années qui viennent. Et justement, si nous refusons d'aborder de front ces questions, et si on reste dans des concepts qui sont très intéressants, mais qui renvoient les changements à quelques décennies, voire plus, et si on n'apporte pas de réponse concrète dès maintenant, eh bien, c'est l'extrémisme qui va l'emporter. Et je crois que ce débat autour du Front National qu'on a commencé à avoir dans les médias pose effectivement les questions habituelles, mais pose deux nouvelles questions, qui est que l'extrême droite est en train, avec une démagogie incroyable, de reprendre, y compris des arguments qui devraient être portés par la gauche. Et on a un an avant les prochaines échéances, et je crains que s'il n'y a pas un réveil de la gauche, et notamment sur la question européenne, et que si on ne remballe pas ces propositions absolument délirante au jour d'aujourd'hui de créer un SMIC européen, de créer des fonds de solidarité européens qui sont aujourd'hui des propositions portées par la gauche de gauche qui n'ont pas le début d'une chance d'être mises en application en 2012, eh bien c'est la démagogie du Front National qui va gagner. Et c'est pour ça que le sujet de la désobéissance européenne est sans doute le sujet le plus important pour les 12 mois qui viennent.
sur deux questions seulement. Une petite remarque sur les biens communs pour commencer. Moi, je pense aussi qu'il faut aller vite, hein, bon, et que toute une série de choses pourraient se faire au niveau de l'État, mais on peut aller encore plus vite et faire des choses au niveau local et au niveau mondial directement sur les biens communs. C'est ça la grande force du concept, c'est qu'il est tout à fait possible au niveau d'une municipalité, sur l'eau, etc., d'imposer la relocalisation et la remunicipalisation, même si je n'aime pas trop le mot de l'eau, ça se fait et ça gagne. Hein, c'est des batailles qui peuvent tout à fait être menées. Et comme je le donnais tout à l'heure sur l'exemple de Wikipédia, il y a des domaines sur lesquels on peut créer du bien commun mondial simplement en se retroussant les manches et en faisant. Hein, et ça marche. Hein, bon, il n'y a jamais eu une encyclopédie aussi efficace et aussi puissante que Wikipédia. Et c'est aussi un outil politique parce qu'elle rééquilibre les rapports de force mondiaux. Mais elle rééquilibre les rapports de force mondiaux, c'est-à-dire les rapports de force linguistiques, dans un sens qui est en même temps compliqué pour les États-nations. Ça a été utilisé, Wikipédia, par les petites langues minoritaires, très massivement. Hein, le norvégien, le slovène, tous ceux qui ont voulu défendre des identités qui étaient bafouées et écrasées, y compris par la mondialisation libérale. Mais en créant des ensembles qui ne sont pas les ensembles nationaux, mais les ensembles linguistiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais on a là des choses qui sont nouvelles, intéressantes et qui peuvent être développées, ce qui ne retire rien à l'intérêt d'avoir des batailles nationales pour imposer des décrets, et des batailles mondiales aussi sur des accords sur le climat et sur toutes ces questions-là. Mais ce qui est intéressant avec la logique des biens communs, c'est que c'est aussi des outils dont on peut s'approprier à tous les niveaux pour commencer à agir. Deuxième question auquel je voulais répondre, c'était la tienne sur la professionnalisation du Forum social mondial. Quand on dit professionnalisation, on peut parler de deux choses un peu différentes. On peut parler de gens qui sont régulièrement amené à faire ces choses-là, donc ils deviennent un peu des spécialistes. Hein, bon, et là, c'est une question à la fois réelle, mais en même temps qu'il faut contrebalancer. Je m'explique en deux mots. On a maintenant quelques milliers, dizaines de milliers de gens qui se connaissent bien sur le plan international depuis la naissance du mouvement altermondialiste, qui a été une force considérable. C'est grâce à ça qu'on a pu monter les mobilisations contre la guerre en Irak. C'est grâce à ça qu'on a pu monter des nouvelles campagnes comme celle sur le changement climatique avec une version sociale très importante. Bon. Et pour ça, il fallait se connaître. Bon. Et donc, quand on crée des délégations, par exemple, pour ce qui est d'attaque pour Dakar, on cherche toujours à mélanger des gens qui ont cette expérience-là, parce qu'ils peuvent être le vecteur et le lien indispensable pour aller vite dans la constitution de nouveaux objets de mobilisation ou de nouveaux objets politiques, et puis en même temps d'avoir un renouvellement générationnel. Bon. Mais c'est vrai que ça peut donner parfois une impression de spécialisation relative, parce que c'est des gens qui ont un peu l'habitude, j'en fais partie, hein, d'aller régulièrement dans les forums sociaux. Bon. Ça, c'est première version de la professionnalisation qui peut être problématique, mais qui est quand même utile. Après, il y a une deuxième version de la professionnalisation, c'est des gens payés par, ce qui est autre chose, donc les ONG, hein, pour le dire vite. Bon. Et c'est vrai que sur l'Afrique, il y a un problème un peu spécifique, hein, qui n'est pas lié à l'altermondialisme, mais qui est lié à la localisation du dernier Forum social mondial. Dès qu'on parle d'Afrique, il y a deux types d'organisations qui arrivent immédiatement, pour de mauvaises raisons, hein, qui sont des raisons paternalistes, à mon avis. Hein. C'est les chrétiens, enfin, vous les religieux, mais enfin, en l'occurrence là, les chrétiens, et les ONG. Hein, bon, parce qu'on va aider les pauvres. Hein, bon. Et dans l'aider les pauvres, vous voyez très bien comment on peut avoir une mobilisation d'ONG de bonne volonté, de mouvements chrétiens, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Les mouvements chrétiens ne sont pas forcément les ONG. Et c'est vrai, et c'était le cas à Nairobi, et ça a été à nouveau le cas à Dakar, que le mouvement catholique était très présent, hein, peut-être un peu trop, mais enfin, je n'ai rien contre, mais enfin, beaucoup en tout cas, bon, et qu'il y a pas mal d'ONG. Mais ça, ce n'est pas lié au mouvement altermondialiste. Hein. On va demain au Brésil ou en Inde, les ONG, je ne dis pas vont disparaître, elles ont toujours été là un peu, mais de façon marginale. Il y a une spécificité dans les relations en Afrique qui est un vrai problème. Enfin bon,
Eh bien, avant de remercier nos intervenants, je voudrais juste dire cinq choses. Donc, Samuel Foutoyer, j'ai oublié de le dire, s'est excusé, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, donc il devait représenter aussi les questions écologiques, et sa femme a été hospitalisée, donc il n'a pas pu être là aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va mettre à votre disposition à la sortie une boîte à laquelle, dans laquelle on vous invite à mettre un peu d'argent pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'on essaye d'autofinancer un peu ce festival et pas simplement de faire appel à l'argent public. Tout de suite après, là-bas, je pense, on va se au planétarium, donc juste là-bas, on va se retrouver pour le happening de Upgrade Paris. Et puis voilà, juste pour finir un peu sur ce thème, alors en posant la question de la mondialisation, on ne souhaitait pas poser un problème dans le langage soft des scientifiques et prendre la version la plus euphémisable de la pression néolibérale. Bien au contraire, on voulait poser cette question fondamentale qu'a posée Marx et qu'a reposée Braudel dans d'autres, avec d'autres logiques, qui est celle de savoir, en même temps que s'accumule le capital, comment le monde se restructure, comment il se réorganise, comment les migrations de population, les échelles politiques se réorganisent et comment ça interpelle le mouvement d'émancipation. Ceci pour dire, pour finir, que l'an prochain, on sera donc, puisque ça intéresse manifestement tout le monde, en tout cas ceux qui sont restés tard ce samedi soir, on sera quelques mois avant les élections présidentielles. Nous organiserons de nouveau un festival Raison d'agir. On ne sait pas encore sur quel thème. Si vous avez des idées, vous pouvez nous les donner. En tout cas, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous à l'année prochaine. Et merci à nos trois invités.